18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Ce grand journal du soir pour tenter de comprendre pourquoi, malgré la venue sur place hier du Premier ministre Édouard Philippe, l'inquiétude et les doutes de la population normande ne cessent de grandir. Vous entendrez ce soir toutes les parties, les élus locaux, des agriculteurs, des enseignants, des médecins, mais aussi des avocats de plaignants. Vous avez la parole au 39-21 pendant ces deux heures pour interpeller nos invités. On commence à recevoir ce soir la liste des produits qui étaient stockés dans l'usine et la quantité. On saura en direct comment analyser ces résultats avec nos spécialistes. C'est important, ces 500 000 habitants de l'agglomération qui attendent d'avoir des réponses concrètes. Quels sont les dangers pour l'environnement, pour leur santé, pour la santé de leurs enfants? On est également avec Thierry Rabillet. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Paris-Normandie. Merci de nous accueillir. Cela fait 5 jours que vos équipes et vous-même êtes mobilisés pour enquêter et couvrir cette actualité. Vous allez être notre fil rouge durant toute cette édition.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je suis là pour réclamer la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité.
Bonsoir à tous, l'inquiétude des Rouennais s'exprime dans la rue ce soir. Rassemblement en ce moment même devant le palais de justice, nous y serons dans un instant.
Les habitants préoccupés, l'État qui promet la transparence totale, conférence de presse dans les minutes qui viennent du préfet de Seine-Maritime. Il dévoile le détail là des produits qui ont brûlé. Nous allons vous donner ce soir toutes les informations au fur et à mesure qu'elles nous parviennent.
Et dans leur cabinet, les médecins généralistes ici n'ont pas toujours les réponses face aux patients atteints de nausées.
On essaie de les rassurer, mais on ne dispose pas de toutes les données aujourd'hui pour être complètement rassuré. On est en attente.
Nous irons aussi à l'Assemblée nationale à Paris où certains députés réclament une commission d'enquête.
Dans l'actualité aussi ce soir, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à un procès dans l'affaire Big Malion, son dernier recours rejeté par la Cour de cassation.
Et puis le gros défi du PSG, rendez-vous dans le volcan de Galatasaray ce soir.
On sait la difficulté qu'on va trouver, va être ambiance très très chaud contre nous.
Thiago Silva, et on ira prendre la température à Istanbul. La bourse de Paris finit en net repli, moins 1,41% à 5597 points.
Et puis la tendance météo, Anissa, dites-nous tout.
Eh bien le soleil fait son grand retour, Nathalie, par l'ouest demain après-midi. Le matin reste encore nuageux et pluvieux.
Europe 1.
On l'a bien ressenti en arrivant ici tout à l'heure, Nathalie, cette odeur très forte d'essence qui flotte dans l'air et qui inquiète terriblement les habitants de Rouen. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, qui est à quelques centaines de mètres de notre studio ici. On verra dans une minute quelles sont les réponses de l'État ce soir. Une conférence de presse est en cours, mais à ce stade, clairement, les promesses de transparence ont du mal à passer. Théo Manval, vous êtes devant le palais de justice de Rouen, où les habitants sont appelés à se rassembler ce soir.
Oui, et ils sont déjà à plusieurs centaines, hein, sous une pluie battante sur le parvis du palais de justice. Certains avec des masques sur la bouche, d'autres avec des pancartes arborant des photos de la fumée noire, de l'incendie, des têtes de mort. Et cette phrase pas toxique, point d'interrogation, mort de rire. Ils ne croient pas en les assurances du Premier ministre venu hier soir ou du préfet qui assure que l'air de la ville et des environs ne présente aucun risque pour la santé. Emmanuel est commerçante.
Je suis là pour réclamer la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Quels sont les dangers? Qu'est-ce qui va être mis en place? Comment consommer sainement?
Oui, vous l'entendez, c'est le manque d'informations hein, jusqu'à aujourd'hui même hein, qui est dénoncé. Dans cette foule, on trouve aussi des responsables politiques écologistes comme l'eurodéputé Yannick Jadot qui dit partager ses inquiétudes et qui estime que les autorités n'étaient pas prêtes à faire face à un tel sinistre.
C'est aussi, vous voyez bien, l'improvisation, l'impréparation quand il y a un accident. Ça part dans tous les sens. Les élus mettent énormément de temps pour être informés, les populations aussi. Donc franchement, il va falloir faire mieux.
Le cortège va donc s'élancer dans quelques minutes en direction de la préfecture, alors que le préfet a commencé à dévoiler il y a quelques minutes la liste des produits chimiques qui ont brûlé lors de l'incendie. On verra si ces réponses satisfont ces manifestants.
Théo Manval devant le palais de justice de Rouen et on vous retrouve hein, Théo tout au long de cette émission spéciale jusqu'à 20h.
Et je salue Thierry Rabillet qui est avec nous ici en studio. Bonsoir.
Bonsoir,
rédacteur en chef à Paris Normandie. On voit, il y a du monde dans la rue ce soir, on ressent cette colère qui monte ici.
Elle monte depuis ce week-end d'ailleurs, puisque déjà des gens se sont mobilisés tout le week-end, ont posé beaucoup de questions, et les réponses qui ont été apportées depuis vendredi et même jeudi dans les premières heures qui ont suivi l'incendie n'ont pas été satisfaisantes. Et ce soir, le préfet promettait de dévoiler la liste à 17h30 après avoir décidé d'une conférence à 15h qui a été reportée de 2h30. Et finalement, la liste, on ne l'a toujours pas. Elle sera publiée sûrement sur le site de la préfecture après la conférence de presse, donc ce qui signifie que les journalistes, nos confrères qui sont présents à la préfecture actuellement, ne peuvent pas poser des questions sur les produits et sur les quantités.
Alors cette conférence de presse, justement, elle est en cours. Thierry Rabier, vous restez avec nous tout au long de ce journal et tout au long de cette émission. Le préfet de Seine-Maritime est en train de s'exprimer en ce moment même. On va rejoindre Virginie Salmen qui suit pour nous cette conférence de presse. La grande interrogation, Virginie, porte sur les produits qui ont brûlé. Thierry Rabier le disait. Est-ce qu'on en sait un peu plus ?
Alors je vous confirme qu'effectivement cette liste et la quantité de tous les produits utilisés dans cette usine Lubrizol vont être mises en ligne, a dit le préfet, dans l'après-midi. Donc pour l'instant ils ne nous ont pas été diffusés. Confirmer en revanche des résultats sur l'amiante. Il n'y a pas de fibres d'amiante dans l'air, dans un périmètre de 300 mètres, a dit le préfet. En revanche, il y a des morceaux de fibrociment, des fibrociments qui ont été retrouvés dans les jardins, dans toute la ville. En fait, c'est très simple, ce sont les fûts qui ont explosé dans l'usine sous l'effet de la chaleur. C'est un effet mécanique. La toiture en fibrociment, donc en amiante, a volé en éclats et des petits morceaux se sont projetés un peu partout dans la ville. Alors, il y a un protocole en cours, le préfet précise que les gens qui ont trouvé des morceaux de fibrociment, donc d'amiante, dans leur jardin ne doivent pas y toucher, que des entreprises spécialisées vont se charger de les éliminer. Évidemment, certains habitants de Rouen ont déjà dû dégager ces fibrociments de leur jardin. Et puis, on attend par ailleurs des résultats dans l'après-midi, a dit le préfet, sur les taux de dioxine. Voilà pour les prochains résultats attendus.
Merci beaucoup Virginie Salmen, spécialiste environnement depuis la préfecture de Seine-Maritime. On vous retrouvera bien sûr tout au long de cette édition spéciale. On entend également le préfet qui à l'instant parle de 160 fûts qui se trouvent dans un état délicat sur le site et qui restent à évacuer donc de cette usine Lubrizol.
Thierry Rabier, Sébastien Krebs le disait, ça fait un peu court là pour l'instant les annonces dont on dispose. On est rassuré sur l'amiante. Est-ce que vous êtes rassuré sur l'amiante ?
Sur l'amiante, depuis le début, on va croire à la parole publique. Je ne vois pas l'intérêt du préfet Durand de mentir à la population rouennaise et à la population de Seine-Maritime sur la présence en faible quantité de cette amiante.
Voilà.
Le micro-ciment a été découvert.
Le fibro-ciment, exactement, vous savez ce que c'est ?
C'est des petits impacts, ça ressemble un petit peu à des morceaux de cailloux, de pierre, voilà, tout simplement, plutôt couleur blanche, grise, classique. Donc on peut prendre ça pour un morceau de plâtre ou un morceau de ciment. Et effectivement, il y en a dans les jardins des éclats qui ont volé, puisqu'on est très près en fait, du site hein, le centre-ville se situe à vol d'oiseau à moins de 500 mètres.
Pour être très clair, il ne faut pas les toucher si on en trouve dans
il faut les utiliser, il faut les toucher avec des gants en latex et les mettre dans des sacs pour les isoler. Effectivement, il ne faut pas toucher avec ses mains.
Les 160 fûts restent donc dans un état délicat et il reste à évacuer de l'usine. C'est ce que l'on a comme information à l'instant. On va y revenir au fur et à mesure des données dont on dispose évidemment avec vous.
En tout cas, 5 jours après l'incendie, les symptômes persistent ici. On en parlait chez beaucoup d'habitants, des maux de tête, des nausées. On va retrouver Johanna Chabas qui a passé une partie de la journée justement dans un cabinet médical. Johanna, beaucoup vont consulter.
Oui, j'étais chez une médecin généraliste qui préfère rester anonyme. Depuis l'incendie, elle estime avoir 20% de rendez-vous en plus. Elle se sent démunie face aux patients inquiets.
Alors essentiellement des symptômes de toux, de malaise, d'irritation, de la gorge, des choses de ce type-là. Et puis beaucoup de demandes de la part de femmes enceintes qui sont très inquiètes sur les conséquences de la fumée sur leur fœtus. On essaie de les rassurer, mais on ne dispose pas de toutes les données aujourd'hui pour être complètement rassurés. On est en attente.
Alors, est-ce que les malades le sont à cause de l'incendie ? Rien n'est sûr, mais beaucoup restent inquiets car leurs symptômes persistent depuis jeudi. C'est le cas de Caroline.
Un petit peu de nausée, mais vraiment essentiellement des maux de tête qui m'ont même réveillée. C'est persistant, c'est tenace, quoi. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Qu'on soit un peu plus informé sur ce qu'on a respiré, peut-être que ça serait bien, mais j'y crois pas trop.
Alors, pour se soigner, elle n'a trouvé qu'une solution, rester chez elle le plus souvent possible, loin de l'air extérieur.
Johanna Chabas, l'une des reporters envoyées ici à Rouen pour Europe 1. Les agriculteurs, eux aussi, sont très touchés. Ils sont 1800 à être affectés par les suies qui sont tombées sur leurs exploitations et qui se voient interdits de commercialiser le lait de leurs vaches laitières, interdits aussi de récolter dans leurs champs. Le ministère de l'Agriculture promet des analyses sous 2 jours et des indemnisations dans les 10 jours qui viennent.
Et pendant ce temps, à Paris, le gouvernement a été assailli de questions aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui était hier soir à Rouen, qui est monté au front.
Je comprends parfaitement, monsieur le député, vous le savez, l'émotion et l'inquiétude des Rouennais et au-delà de tous les habitants de la métropole rouennaise et des communes qui ont été survolées par le nuage. Cette inquiétude, elle est légitime. Il faut la prendre au sérieux. Je redis devant la représentation nationale l'engagement de transparence absolue qui est celui du gouvernement. Toutes les informations sont et seront rendues publiques.
Le Premier ministre Édouard Philippe, on va rejoindre Aurélie Herbemont à l'Assemblée nationale. Aurélie, les députés d'opposition sont très remontés, ils demandent des comptes et certains réclament une commission d'enquête parlementaire.
Oui, les parlementaires se sont emparés de la catastrophe de Rouen. Communistes et UDI réclament une mission d'information. Insoumis et socialistes exigent une commission d'enquête parlementaire. C'est ce que demande dans l'hémicycle le député PS de Seine-Maritime, Christophe Bouillon, au nom de la vérité due aux Rouennais.
Vous dites vouloir la vérité pour les habitants, nous aussi. Mais nous leur devons plus que la vérité. Nous leur devons la sérénité. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les Normands ne sont pas sereins. Ils sont en colère.
Une colère et un désarroi de la population relayés par pas moins de 5 députés qui interrogent le gouvernement sur ce sujet. Et le Premier ministre a beau avoir assuré que la liste des produits ayant brûlé sera bien dévoilée, l'insoumis François Ruffin revient à la charge.
Nous sommes 5 jours après cette catastrophe majeure. Si vous voulez lever de voile de suspicion, comment ça se fait que vous avez attendu 5 jours pour rendre publique la liste de ces produits? Vous le savez. Vous avez cette liste, pourquoi vous ne l'avez pas rendue publique beaucoup plus rapidement?
Un député LR agite ensuite le spectre de Tchernobyl. Bref, le gouvernement est clairement mis sous pression. La ministre de l'écologie, Elisabeth Borne, est d'ailleurs convoquée demain pour une audition par la commission du développement durable.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, Thierry Rabilly, on le voit, c'est en train de devenir un sujet politique, une commission d'enquête parlementaire, ça changerait quelque chose?
Ça devient une affaire d'État, effectivement, puisque une commission pourrait servir, effectivement, et actuellement il y a une enquête judiciaire qui est menée par le parquet de Rouen sous la direction du procureur Philippe Prache. Ensuite, il y a une commission administrative qui est menée par les services de l'État. Une commission, ça serait une troisième enquête, ça serait une commission indépendante. Effectivement, ça permettrait peut-être aux citoyens rouennais et de la Seine-Maritime de penser que les résultats qui seraient donnés par cette commission d'enquête seraient la vérité sur ce qui s'est passé exactement à Lubrizol le 26 septembre 2019.
Lubrizol, ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes dans cette usine?
Non, ce n'est pas la première fois. On se souvient, nous les Rouennais, de 2013, hein, il y a 6 ans, avec une émanation de mercaptan. C'est un produit qui est utilisé pour mettre de l'odeur dans les gaz. Et Delphine Bateau, je crois qu'il sera bientôt à l'antenne avec vous, va pouvoir raconter, puisqu'elle était venue sur le site de Lubrizol. Elle connaît le site de Lubrizol. Elle avait dû gérer cette crise déjà, qui était une crise d'État en 2013, puisque les émanations de mercaptan s'étaient ressenties jusqu'en Ile-de-France. Et ça avait été une mobilisation générale des services de l'État déjà.
Absolument. Alors, vous l'avez dit pour moi, merci. Delphine Bateau, ancienne ministre de l'Environnement, députée, jusqu'à 18h30 sera avec nous. À partir de 18h30 sera avec nous. Et puis des médecins, des agriculteurs, des associations. On va vous donner toutes les informations. On va être très réactifs ce soir. Édition spéciale sur Europe 1, ici en direct depuis Rouen, jusqu'à 20h et demain dès 6h.
Et d'un mot, on a parlé d'une autre usine ce matin, Borealis, usine mise à l'arrêt tout près d'ici, à Grand-Quevilly. Usine d'engrais, site lui aussi classé Seveso. En fait, il s'agissait d'un problème d'alimentation électrique. Il n'y a pas eu d'incendie.
Europe
1. Vous écoutez votre grand journal du soir en direct de Rouen avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à un procès dans l'affaire Big Malion. La Cour de cassation rejette son ultime recours.
Et puis le PSG ce soir dans l'antre du Galatasaray, l'un des stades les plus chauds d'Europe. On ira prendre la température là-bas.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1.
Effet lifting, toucher cachemire, découvrez la crème cachemire redensifiante de Caudalie.
Je suis pharmacien conseil Caudalie et quand les femmes me demandent une solution contre le relâchement du visage, je conseille la crème cachemire Resveratrol Lift, un anti-âge développé avec les chercheurs de Harvard qui repulpe, redensifie et raffermit la peau. Les tests l'ont démontré, 100% des femmes trouvent leur peau raffermie.
En ce moment, votre crème nuit format découverte offerte pour l'achat d'une crème cachemire. Voir conditions en pharmacie et parapharmacie dans la limite des stocks disponibles. Caudalie, numéro 1 des soins anti-âge en pharmacie.
Ford.
Ok Teddy, on va proposer la Ford Fiesta tout équipée à partir de 119€ par mois avec grand écran tactile compatible Waze.
Pas mal, rajoute le truc pour rester dans la voie s'il te plaît.
Pas besoin Teddy, elle l'a déjà.
Excellent.
Pendant les portes ouvertes Ford les 12 et 13 octobre, la Ford Fiesta tout équipée est à partir de 119€ par mois seulement. C'est Teddy qui l'a dit.
Ouverture selon autorisation, LLD à particulier, 48 mois, 40 000 km d'une Fiesta 5 portes Cool & Connect, 70 chevaux. Premier loyer de 1 500€ ramené à 0€, prime à la conversion déduite. Offre jusqu'au 31 octobre, si reprise et si accord, Bréman Elise, voir Ford.fr.
Le
Leclerc.
Chérie, en ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, pour deux paquets de dosettes Senseo achetés, un offert.
Super.
Du coup, je suis passé chez Leclerc, offert le plein de café, classique, corsé et doux.
Le plein ?
Ah oui, et ça se stocke très bien.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 1er au 12 octobre, pour l'achat de deux paquets de dosettes Senseo de 416 grammes chacun, variété au choix, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc.
Deux paquets achetés, un offert. Un petit café.
Pour votre santé, bougez plus.
18h14 sur Europe 1, la suite du journal en direct de Rouen avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Nicolas Sarkozy face au juge, il y aura bien un procès Sébastien en correctionnel dans l'affaire Big Malion.
La Cour de cassation a rejeté aujourd'hui l'ultime recours déposé par l'ancien président. On voit cela avec vous, Salomé Legrand. Nicolas Sarkozy sera jugé pour les dépenses excessives de sa campagne en 2012.
Et oui, après deux ans d'une bataille judiciaire au cours de laquelle Nicolas Sarkozy et ses avocats ont contesté ce procès à chaque étape, l'ancien président sera finalement bien jugé pour financement illégal de campagne électorale, délit pour lequel il encourt un an de prison et 3 750 € d'amende. On lui reproche, vous l'avez dit, d'avoir dépassé le seuil de dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros. Nicolas Sarkozy, deuxième président de la République à être renvoyé devant la justice après Jacques Chirac, ne sera pas seul à la barre. 13 autres personnes, d'anciens cadres de l'UMP et des dirigeants de Big Malion, sont poursuivis pour complicité de ce financement illégal de campagne ou bien pour escroquerie. Le tribunal correctionnel va devoir décortiquer un vaste système de fausses factures qui visait à maquiller l'emballement des dépenses des meetings du candidat. Ce sera le deuxième procès Sarkozy après celui des écoutes, dossier dans lequel il sera jugé pour trafic d'influence et corruption d'un haut magistrat de la Cour de cassation.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 et hasard du calendrier au lendemain de l'enterrement de Jacques Chirac. On reparle aussi de la présidentielle de 1995 au chapitre judiciaire.
Oui, parce que c'est Édouard Balladur, aujourd'hui 90 ans, qui est renvoyé devant la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi, affaire qui porte sur des rétrocommissions versées lors de ventes d'armes et qui aurait financé sa campagne. À l'époque, il sera jugé notamment pour complicité d'abus de biens sociaux, tout comme son ministre de la Défense, François Léotard.
L'actualité à l'étranger maintenant, ce sont, Sébastien, ces nouvelles manifestations à Hong Kong.
Et la police a ouvert le feu pour la première fois à un manifestant blessé à la poitrine par un tir à balles réelles au moment où Pékin célébrait en grande pompe les 70 ans du régime communiste par un défilé militaire spectaculaire.
Le foot et le retour de la Ligue des Champions, ça se passe ce soir, gros défi pour le PSG.
Oui, mais que peut-il leur arriver après avoir vaincu le Real au Parc des Princes? Bon, on va voir parce que ça s'annonce pas si évident ce soir à Istanbul. Julien Froment, vous êtes sur place, vous allez nous faire vivre ce match. Les Parisiens dans l'antre du Galatasaray, gros défi parce que c'est un volcan ce stade.
Oui, exactement, une ambiance de folie, 52 000 supporters qui sont d'ailleurs déjà en train d'entrer dans l'enceinte alors que nous sommes à 2h40 du coup d'envoi. Clairement, c'est une marée rouge, jaune et blanche qui va s'abattre sur le Paris Saint-Germain. Le capitaine Thiago Silva s'attend lui aussi à ressentir des secousses sur la pelouse.
On connaît l'histoire de Galatasaray quand on joue ici, des supporters sont très passionné pour son club. On sait la difficulté qu'on va trouver. Va être une ambiance très très chaude contre nous.
Oui, alors c'est une ambiance de folie. C'est bien cette ambiance de folie, mais sur le terrain, Paris est normalement supérieur au Galatasaray, une équipe parisienne qui peut déjà faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire. Enfin, selon nos confrères du Parisien, Kylian Mbappé devrait débuter la rencontre sur le banc et c'est l'Argentin Mauro Icardi qui est annoncé dans le 11 de départ.
Julien Froment à Istanbul pour Europe 1, Galatasaray PSG, coup d'envoi 21h, c'est à suivre en fil rouge sur Europe 1. Et ce soir, le Real de Zidane affronte les Belges de Bruges et Tottenham, le finaliste l'an passé, reçoit le Bayern Munich.
Merci Sébastien. 18h30, un nouveau journal avec vous en direct donc ce soir de Rouen. Anissa, dites-nous tout sur la météo à Rouen et puis bien sûr ailleurs en France. Demain, ça commence plutôt gris.
Oui, exactement. À Rouen, dans la nuit, des averses sont encore possibles. Le temps redevient sec au fil des heures et nous aurons à Rouen de très belles apparitions du soleil demain après-midi. Alors sur le reste de la France, effectivement, le ciel est encore couvert demain en début de journée. Du nord au sud-ouest en passant par le centre, les nuages seront nombreux, porteurs de quelques averses encore demain matin. C'est sur les Alpes et les Pyrénées que les pluies seront les plus soutenues demain. Dans l'après-midi, c'est par l'ouest, en Normandie, en Cotentin, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en région parisienne, dans les Ardennes et sur les côtes aquitaines, c'est par là que le soleil va faire son grand retour. Le long du littoral méditerranéen et en Corse, là la journée s'annonce très ensoleillée dans l'après-midi. Mais attention, le Mistral et la Tramontane se lèvent et il va souffler fort, ce vent jusqu'à 80 km/h. Les températures en légère baisse. Demain, 9 à 18 degrés du nord au sud le matin. Dans l'après-midi, ça baisse. 14 à Lille, 16 à Brest, Clermont-Ferrand et Paris, 18 à Nantes, 22 à Manon.
Manosque, 24 à Marseille et jusqu'à 26 quand même à Nîmes.
Europe 1.
Votre grand journal du soir en direct de Rouen avec Paris Normandie, c'est jusqu'à 20h, Nathalie Lévy.
Et oui, on est accueillis ici dans les studios de ce quotidien. Merci à vous tous de nous accueillir. Et on a en ligne, dans un petit instant, Delphine Bateau. Vous savez, Delphine Bateau, elle est députée des Deux-Sèvres. Elle est surtout ancienne ministre de l'écologie. Elle s'interroge, elle aussi, comme les Rouennais aujourd'hui. Y a-t-il faute de l'État? En tout cas, pas de nocivité. Puis, je ne sais pas, comment le gouvernement a changé de ton en l'espace de 5 jours? Elle va s'interroger avec nous. On va lui poser les questions. Cette commission d'enquête parlementaire a-t-elle un sens? Que peut-elle apporter? Elle sera en direct sur Europe 1, Europe 1 à Rouen jusqu'à 20h. C'est avec vous et avec les auditeurs au 39-21.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy en direct de Rouen, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir en direct de Rouen avec Paris Normandie se poursuit. Nathalie Lévy, elle a été ministre de l'Environnement, elle est aujourd'hui députée des Deux-Sèvres. Vous recevez ce soir, Nathalie, Delphine Bateau.
Bonsoir Delphine Bateau.
Bonsoir.
Merci de nous répondre ce soir dans cette édition spéciale.
Et bonsoir, si vous permettez, à Paris Normandie et à toute la presse quotidienne régionale de Normandie que nous sommes nombreux à avoir suivi ces derniers jours et lu avec attention.
Eh ben c'est parfait parce que Thierry Rabillet, qui est rédacteur en chef du quotidien Paris Normandie, vous écoute et va vous interroger avec moi ce soir, si vous le voulez bien, Delphine Bateau. On est 5 jours après le drame, Delphine Bateau. Avez-vous confiance dans la parole des autorités, oui ou non?
En fait, le problème, c'est que cette parole, elle s'est petit à petit affaiblie et discréditée en ne rendant pas un certain nombre d'informations. Et donc la première demande que font les habitants depuis plusieurs jours et que j'ai relayée encore ce matin, c'est que la liste des produits soit rendue publique. Et une étape a été franchie cet après-midi puisque le Premier ministre a annoncé que ce serait le cas. Et donc à partir du moment où cette liste sera publique, ça permettra à ce que elle soit analysée, à ce que des experts indépendants se penchent dessus. Et à partir de là, je pense qu'on pourra travailler sereinement sur les mesures de protection de la santé de la population. Et puis ensuite, il faudra se pencher sur ce qui a dysfonctionné en fait, dans la gestion de cette crise.
Mais où est la responsabilité de l'État? Pour le Premier ministre, Édouard Philippe s'est déplacé hier à Rouen. Il a promis l'absolue transparence. La liste, donc, on va la voir. Il a assuré que les odeurs, aussi gênantes soient-elles, n'étaient pas nocives sur la foi des analyses effectuées. Comment, selon vous, être aussi affirmatif si les risques sont réels? Pourquoi se serait-il déplacé
Mais le problème,
au contact
en fait,
des
c'est...
habitants pour finalement ne pas être dans la vérité?
En fait, il n'y a pas un mensonge délibéré. Il y a une culture de la relativisation, en fait, et de la minimisation du risque et de ce que subissent les habitants. Et donc, le problème, c'est que le discours du préfet, le discours des autorités, des ministres, qui sont rassurants, par exemple, de dire qu'il n'y a pas de toxicité aiguë, et quand vous avez, par exemple, la rédaction de France 3 qui est évacuée, ou encore aujourd'hui, des écoles où les enseignants ont dû appeler les parents pour qu'ils viennent chercher les enfants parce qu'il y avait des mauvaises odeurs et des enfants qui ne se sentaient pas bien, ce n'est pas cohérent avec le message des autorités. Donc, en fait, moi, je crois que ça renvoie à la conception qu'on a de la maturité des citoyens. Les citoyens, on doit, je veux dire, tout mettre sur la table, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on est en train de chercher. Et c'est ça qui crée la confiance et qui est rassurant. C'est la raison pour laquelle, moi, j'estime que la faute de l'État dont je parle là, ce n'est pas la question de ce gouvernement-là. Ça se serait passé la même chose avec n'importe quel gouvernement, en fait. Et donc, il y a...
C'est systémique, en fait.
Il y a quelque chose de profond que j'avais vécu moi-même, qui avait donné lieu à un rapport d'inspection qui devait changer un certain nombre de procédures. Par exemple, une des recommandations à la suite de ce qui s'était passé en 2013, c'est qu'on arrête, si vous voulez...
Je vais rappeler, pardonnez-moi Delphine Bateau, je rappelle pour les auditeurs qu'en 2013, effectivement, l'usine Lubrizol avait déjà fait l'actualité avec une fuite de gaz qui était intervenue sur le site, donc c'est effectivement pour cela que vous connaissez bien le dossier, et qui avait été condamnée à 4000 euros d'amende.
Oui,
pour négligence.
Ce qui est une condamnation extrêmement faible, vu le préjudice qui avait été subi par les habitants. Mais par exemple, la conclusion, c'était de dire qu'il faut changer d'appréhension de ce qu'est un risque sanitaire. Un risque sanitaire, c'est pas juste la toxicité aiguë. Ça peut être le fait d'être incommodé, ça peut être le fait qu'il y ait des conséquences sanitaires à moyen et à long terme. Donc par exemple, ça c'était une des instructions à la suite de ce qui s'était passé chez Lubrizol en 2013.
Delphine Bateau, Thierry Rabillet qui est à mes côtés, vous interroge, le rédacteur en chef du quotidien Paris Normandie.
Si mes souvenirs sont bons, vous aviez vécu la même chose en 2013 et vous aviez eu des propos très rapidement, très rassurants. Vous aviez dit, je vous cite, hein, « Je préfère que l'on prenne du temps plutôt que l'on prenne des risques. Il y a pu avoir des effets sanitaires faibles, mais je veux insister sur le fait qu'il n'y a pas de danger pour la santé. » Ce sont vos propres propos le soir quand vous arrivez de Berlin sur le site de Lubrizol en pleine nuit, alors qu'on n'a plus de préfet. Le préfet Mazzoni arrive dans la nuit aussi en urgence, parce qu'il n'avait pas pris son poste encore. La directrice de cabinet avait été débarquée dans la foulée. Donc, il y avait eu déjà du cafouillage à l'époque.
Oui, il faudrait quand même finir la phrase que vous avez rappelée et que je connais par cœur, qui disait « Mais il ne faut pas minimiser parce qu'il peut y avoir des mal de tête, il peut y avoir des nausées, etc. » Donc, je n'étais pas dans une logique de minimisation. Ce que j'ai vécu, moi, je pourrais en parler des heures, on pourrait faire une émission spéciale sur le sujet. C'est d'abord un accident industriel qui se passe dans un site et qui s'en rend compte que le lundi, pendant le week-end, et qui s'en rend compte que le matin, qui ne prévient le préfet que plusieurs heures après les premières constatations. Or, il n'y a pas de préfet. Et donc, la préfecture prévient le ministère à nouveau plusieurs heures après être alerté de cet incident. Et pendant la première journée, et ça a été la raison de ma venue à Rouen, si vous voulez, les services qui font par ailleurs remarquablement leur travail, les personnes ne sont pas en cause et je sais leur dévouement au bien public, disaient ça va être réglé cet après-midi, ça va être réglé ce soir, et puis comme c'était pas réglé ce soir, ça va être réglé demain matin. Et c'est pour ça, excusez-moi, que j'ai décidé de venir pour effectivement dire que ça prendrait du temps plutôt que des risques, parce que à l'époque on avait deux alternatives. Soit prendre un risque d'explosion du site pour régler tout de suite la réaction chimique qui était en cours, soit mettre plusieurs jours à régler le problème, et c'est le choix qui a été fait.
Delphine Bateau, est-ce qu'aujourd'hui l'enquête administrative, est-ce qu'il faut une enquête administrative? C'est une nécessité absolue pour faire jour sur ces événements?
C'est clairement pas suffisant, puisque l'enquête administrative d'inspection... Il y en a eu une en 2013, je l'ai demandé quelques jours après parce que j'avais constaté tous les dysfonctionnements qu'on vient d'évoquer. Elle a rendu des conclusions, elle a donné lieu à une instruction du gouvernement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour qu'on comprenne est-ce que ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre et pourquoi. Comment ça se fait qu'on a autorisé, par exemple, que l'État a autorisé Lubrizol à augmenter ses capacités de stockage de produits dangereux sans étude d'impact environnemental en janvier dernier?
Pourquoi? Alors, parce qu'il y a eu ce nouvel épisode en 2015,
de démantèlement.
Delphine Bateau, pourquoi est-ce que Lubrizol passerait entre les mailles du filet? Qui pointez-vous dans ce cas?
Il y a une logique, en fait, d'affaiblissement des contrôles et des prérogatives de l'État dans le contrôle des sites Seveso. Parfois par manque de moyens, par exemple le nombre de contrôles a diminué ces dernières années, mais aussi parce qu'il y a aujourd'hui une logique d'affaiblissement des normes. Et quand par exemple on autorise un industriel à augmenter les capacités de produits dangereux sans étude de danger, sans étude d'impact, ce n'est pas responsable pour la sécurité des Français.
Merci Delphine Bateau d'avoir réagi ce soir depuis les studios d'Europe 1 à Paris. Nous sommes ici à Rouen et on se retrouve évidemment en édition spéciale jusqu'à 20h avec tous nos invités.
Merci.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir en direct de Rouen avec Nathalie Lévy.
Et le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Le préfet de Seine-Maritime chargé de mettre en musique ce soir la promesse de transparence absolue répétée par le gouvernement après l'incendie Lubrizol. La liste des produits qui ont brûlé doit être dévoilée dans la soirée. Deux éléments déjà communiqués. D'abord, 160 fûts restants sur le site sont dans un état, je cite, délicat et participent aux émanations d'odeurs. Il faudra un protocole pour les évacuer. Et puis pas de risque avéré lié à l'amiante, assure la préfecture sur la base des premières analyses. À retenir également dans l'actualité de ce mardi, Nicolas Sarkozy bientôt jugé en correctionnel dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne présidentielle 2012. Son dernier recours est rejeté. Le parquet antiterroriste saisi après la diffusion d'une vidéo en Corse. 5 individus en cagoule et armes à la main qui annoncent la reconstitution du groupe clandestin FLNC. Et puis la filiale française de Thomas Cook placée en redressement judiciaire après la faillite de sa maison mère. Le tour opérateur indique que plusieurs repreneurs sérieux se sont manifestés. Enfin, un Lavillenie en finale du concours de saut à la perche des mondiaux d'athlétisme. favoritisme. Mais cette fois, c'est le frère cadet, Valentin Lavillény, qui défend les chances françaises à Doha ce soir.
Ah, quand c'est de famille, hein. Merci beaucoup Sébastien. 19h, un journal complet avec vous en direct de Rouen.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Anissa, c'est la grisouille. Hein.
Oui, exactement. La grisouille, mais que pour le matin, Nathalie. Ça s'arrange dans l'après-midi. Demain, la journée débute sous les nuages sur la quasi-totalité du pays. Seul le littoral méditerranéen est sous le soleil au lever du jour. Mais attention, le Mistral et la Tramontane se lèvent demain avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Au fil des heures, les nuages se déplacent vers l'est, du nord aux côtes aquitaines, en Champagne-Ardenne, en Île-de-France, dans la région centre. Le soleil est de retour demain après-midi. Les températures sont en légère baisse. Il fera seulement 16 degrés demain après-midi à Paris, 24 à Marseille. Et du côté de Rouen, là aussi les températures baissent. 10 degrés demain matin au lever du jour, 15 degrés demain après-midi avec le retour du soleil. Votre grand journal du soir en direct de Rouen avec Paris-Normandie. C'est jusqu'à 20h, Nathalie Lévy.
Et oui, Paris-Normandie, le quotidien qui nous accueille dans ses locaux ce soir avec, entre autres, Thierry Rabillet, rédacteur en chef de ce journal, de ce titre qui est, j'allais dire, en surchauffe depuis 5 jours, depuis l'inspectaculaire incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Vous êtes avec nous, merci. On reçoit évidemment dans ce studio des invités ce soir. Clément Lefebvre, bonsoir. Vous êtes professeur au collège Fernand Léger au Petit Quevy. Vous avez utilisé votre droit de retrait depuis les événements. Vous allez nous expliquer dans un petit instant parce que vous étiez à la marche où se trouve également Théo Manval pour Europe 1. Cette marche à Rouen, Théo Manval, on vous retrouve, qui va du palais de justice à la préfecture pour dire on veut la vérité, c'est ça, c'est ce qu'on a entendu.
Oui, exactement. On a 200 à 300 personnes qui défilent actuellement avec des pancartes. Le coupable doit payer. Certains distribuent des masques pour respirer. Et tous dénoncent effectivement le manque de transparence déjà sur les mesures effectuées depuis jeudi. Et puis surtout le manque d'information de la population. Je suis avec Marie et André dans le cortège. Marie, vous me disiez tout à l'heure, je suis très en colère.
La ville entière est en colère. On n'est pas des enfants. On a été prévenus trop tard.
Vous avez été prévenu quand, par exemple ?
Par ma fille parisienne qui a entendu les informations et qui m'a téléphoné.
Quand le Premier ministre venu hier, le préfet aussi disent la qualité de l'air, ok, ça sent pas bon, mais ce n'est pas nocif pour la santé. Est-ce que vous les croyez ?
Alors, de dire que ça sentait habituellement Rouen comme ça, c'était archi faux.
Dans la mesure où on ne sait pas encore ce qu'il y a dans l'air, après tout, on le respire depuis 3-4 jours. Moi, je viens d'ouvrir seulement aujourd'hui mes fenêtres un tout petit peu depuis jeudi dernier. On respire quoi ?
Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose ici. Merci beaucoup. Vous l'entendiez, hein, Nathalie, les précisions du préfet ce soir sont du coup très attendues. On veut savoir exactement quels produits sont partis en fumée. Savoir enfin, hein, j'ai envie de dire, 5 jours déjà après la catastrophe.
Théo Manval, je vais revenir vers vous dans une petite seconde. Je vais donner la parole à Virginie Selmen parce que j'aimerais bien savoir ce que ça sent là du côté de chez vous et ce que vous pouvez nous dire, comment vous vivez vous aussi qui êtes dans cette marche, ce que vous sentez. Virginie Selmen, on vous retrouve, vous êtes notre spécialiste des questions environnement européen. Vous êtes à la préfecture de Seine-Maritime à Rouen. Le préfet a pris la parole, Pierre-André Durand. J'ai envie de dire qu'il n'a pas été très prolixe hein, pour l'instant sur la liste des produits qui étaient stockés dans l'usine et la quantité. On saura ça plus tard, on a quelques éléments à peine.
Oui, effectivement. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas eu accès à cette liste de produits toxiques de l'usine Lubrizol, ni aux quantités. Elle devrait être publiée sur le site de la préfecture de Seine-Maritime dans les minutes qui viennent, avec des fiches techniques pour chaque produit, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Le préfet a parlé aussi de cette odeur, donc, qui règne encore ici à Rouen, incommodante et anxiogène, a-t-il dit. Alors, on commence à avoir quelques éléments de réponse. Il y a deux hypothèses. C'est peut-être un mélange d'eau et d'huile qui aurait macéré entre les deux hangars de l'usine. Ce mélange devrait être pompé d'ici la fin de la semaine. Et puis, il y a aussi autre chose, des fûts, 160 fûts qui ont chauffé pendant l'incendie et deux substances ont pu s'en échapper, se diffuser, du mercaptan et du H2S. Voilà des fûts qui devraient donc être déplacés. D'autres résultats encore, je vous le disais tout à l'heure, sur l'amiante. Il n'y a pas de taux anormaux d'amiante dans l'air, nous disait le préfet. En revanche, du fibrociment, donc des espèces de petits cailloux qui sont des fibres d'amiante, ont été retrouvés dans les jardins, ont pu être propulsés assez loin de l'usine, ici dans la ville de Rouen, dans les jardins ou dans les cours des maisons.
Virginie Selmen pour Europe 1. Théo Manval, je reviens vous voir parce que nous, on a été saisis par cette odeur en arrivant de Paris tout à l'heure, dans ces locaux de Paris-Normandie. Est-ce que vous, c'est le cas dans cette marche-là au cœur de Rouen, qui va du palais de justice, je le rappelle, à la préfecture ?
Alors pour être tout à fait honnête, ça dépend des courants, des vents. En fait, là, dans le centre-ville de Rouen aujourd'hui et près au parvis du palais de justice où je me trouve, non, on sent plus cette odeur tout simplement parce que les vents ont plutôt traîné ces fumées vers le nord. En revanche, tout à l'heure, pour des reportages que vous entendrez plus tard sur l'antenne d'Europe 1, je suis allé vers le site de Lubrizol et là, effectivement, on sent encore cette odeur très forte que vous avez vous-même senti puisque les locaux de Paris-Normandie où vous vous trouvez sont à quelques centaines de mètres seulement du lieu de l'incendie. Et là, oui, dans les zones qui ont été balayées par ces fumées, cette odeur est encore très forte et on comprend du coup d'autant plus l'inquiétude de toutes les personnes qui sont rassemblées aujourd'hui ici sur le parvis du palais de justice.
Théo Manval en direct dans le cœur d'Europe 1. On va revenir vous voir et puis évidemment les Rouennais qui nous appellent très nombreux au standard 3921. N'hésitez pas, on va transmettre vos questions. On va évidemment vous répondre autant que possible dans un petit instant en direct de Rouen ce soir, édition spéciale.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, édition spéciale en direct de Rouen avec Paris-Normandie. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy, et avec vos invités.
Effectivement, nos invités, Thierry Rabillet, qui est le rédacteur en chef du quotidien Paris-Normandie, Clément Lefebvre, vous êtes professeur au collège Fernand Léger au Petit Quevilly. Merci d'être avec nous. Et puis bien sûr, tous ces témoins, tous ces Rouennais qui nous appellent nombreux au 39-21 ce soir. On va prendre Olivier qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Olivier, comment vous vivez depuis ces événements la semaine dernière, ce spectaculaire incendie? Quelle est votre crainte? Quel est votre état de santé aussi?
Alors, comment on vit, c'est relativement, compliqué, puisqu'on coupe les arrivées d'air d'insert, on coupe les VMC, on coupe, quand on est en voiture, l'arrivée d'air extérieur. On regarde tous les soirs la météo pour connaître le sens du vent, pour savoir si on va pouvoir enfin aérer la maison. Parce que moi, j'ai un problème, mais comme beaucoup de Rouennais, j'ai une petite en bas âge et j'ai aucune envie qu'elle respire un air nocif. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont quotidiennes à l'heure actuelle. À cela, on ajoute la communication désastreuse, et un manque d'empathie globale, puisqu'on a un préfet qui nous dit que l'air n'est pas plus pollué qu'habituellement. Donc, je pense pas qu'on doit respirer la même chose quand nous sommes de Rouen. On est connu pour avoir une ville qui est relativement polluée habituellement, mais là, ça dépasse tout entendement. Il y a des gens qui sont pris de maux de tête régulièrement. Il y a même eu des cas.
C'est votre cas également?
Des maux de tête, oui, quand je suis dans une pièce, les pièces sont relativement polluées, enfin on sent l'odeur de manière intense et donc ça provoque des maux de tête. J'ai même lu des articles où on parlait de gens qui étaient pris de vomissements, qui avaient été admis au CHU. Donc c'est pour ça que quand on nous dit que l'air n'est pas plus pollué qu'habituellement, j'ai du mal à le croire et surtout quand j'ai que comprendre qu'on ne sait même pas ce qui a vraiment brûlé. Enfin, on sait qu'il y a différents produits qui ont brûlé, mais on ne peut pas vraiment dire lesquels et puis l'impact, puisque les études sont toujours en cours.
Alors, voilà. Ce sera sur le site de la préfecture dans quelques minutes, normalement, et j'espère qu'on pourra vous en dire plus ici au regard des informations dont on disposera. Merci beaucoup, Olivier, de votre appel ce soir. Clément Lefebvre, vous qui êtes prof, comment vous fonctionnez depuis les événements, depuis 5 jours? Qu'est-ce que vous avez décidé?
Alors, dans notre établissement, qui est le collège le plus proche de l'usine Lubrizol, c'est-à-dire que nous, on est à 700 mètres,
ah oui, 700 mètres.
De l'usine Lubrizol. La chance qu'on a eue jeudi, c'est que nous, notre collège, il était opposé au sens du vent, c'est-à-dire que malgré la proximité, les fumées ne venaient pas vers nous. Par contre, on a constaté un certain nombre de dysfonctionnements au sein de la préfecture, puisque notre établissement, il a reçu l'ordre de fermer aux alentours de 9h, et le dernier élève l'a quitté vers 10h30. Alors même que l'incendie n'était pas du tout circonscrit. Donc on estime à ce moment-là avoir été mis en danger, délibérément ou pas, mais en tout cas il y a eu un dysfonctionnement de la part de la préfecture. En plus, les collègues et les élèves, ils ont fait le trajet aller-retour sous les fumées pour se rendre dans l'établissement. Donc là, on a été assez en colère de voir que, alors même qu'on s'entraîne toute l'année à ce type d'exercice de par notre proximité avec les sites Céveso, là, ça n'a pas fonctionné comme lors des exercices. On s'est retrouvés totalement démunis.
Clément Lefebvre, comment a été nettoyé l'établissement?
Alors, dès le vendredi, l'établissement a été fermé. Alors, il a été fermé parce que la maire du Petit Quevilly a décidé la fermeture des écoles. C'est même pas la préfecture qui l'a demandé. J'ai demandé à mon chef d'établissement de demander à l'autorité de tutelle, donc le conseil départemental, de procéder au changement des filtres de l'établissement, au nettoyage de la cour. Ce qui a été fait, mais ce qui n'a pas été...
Mais ce qui a été fait par des professionnels, j'allais dire, ou par simplement des équipes de nettoyage classiques?
Alors la chance qu'on a eue dans notre établissement, c'est que contrairement à beaucoup d'écoles, ce sont des entreprises qui sont venues effectuer ces interventions. Et ça, j'en suis assez reconnaissant de par notre chef d'établissement d'avoir pris soin de prendre ce type de mesures. Mais on sait que dans d'autres écoles, ça a été fait par les agents municipaux, c'est pas forcément ou territoriaux, c'est pas forcément très bon pour leur santé.
C'est pas des professionnels, Thierry Rabillet, vous qui nous accompagnez et qui nous recevez là dans vos locaux, ce sont pas des professionnels de la décontamination qui ont œuvré, que ce soit dans les écoles ou ailleurs, c'est normal.
Si on prend le cas des écoles élémentaires de Rouen ou maternelles, ce sont des femmes de ménage qui ont fait le ménage le vendredi ou le samedi, ou des agents de la ville de Rouen qui sont venus dans la cour passer des jets d'eau. Donc effectivement, il n'y a pas eu de société.
Portant des masques, portant des équipements particuliers.
Sans masque et sans gants pour la plupart, sur ce qu'on a les photos qu'on a pu suivre en reportage.
Vous avez fait ce retour, vous avez dit quelque chose, vous l'avez montré dans les pages de Paris Normandie.
On l'a montré, on l'a écrit, on l'a dit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, monsieur disait que son collège n'a pas été exposé, alors qu'aujourd'hui, ce sont les écoles des quartiers ouest de Rouen, donc ils sont sous le panache direct. Donc les écoles, par exemple, Franklin, Achille Lefort, André Potier, où les enseignants aujourd'hui ont demandé aux parents de venir chercher, car depuis hier, là, même si les écoles ont rouvert officiellement, effectivement, l'air est très incommodant à l'intérieur, et donc il y avait une quarantaine, par exemple, dans l'école André Potier, une quarantaine d'enfants qui ne sont pas venus hier ni aujourd'hui. Et aujourd'hui, les enseignants demandaient aux parents de venir chercher les enfants, ce que l'odeur est très difficile à supporter.
Dans l'intervalle, j'accueille Nicolas Mayer-Rossignol. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes élu municipal de Rouen, ancien président de la région. Et on va se parler dans un petit instant. On retourne à Paris une fraction de seconde et on est ici en direct de Rouen jusqu'à 20h. Soyez au rendez-vous et contactez-nous au 3921 pour cette édition spéciale.
Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. On vous lit, hein, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Nathalie Lévy, en direct de Rouen, c'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 en édition spéciale en direct de Rouen avec Paris Normandie et Nathalie Lévy et ses invités.
Oui, merci à tous si vous nous rejoignez. Effectivement, on est en direct jusqu'à 20h avec nos invités, avec vous, les auditeurs qui nous contactez au 3921. Que vous soyez rouennais ou ailleurs, évidemment, n'hésitez pas à composer ce numéro pour poser les questions et on tentera de vous répondre. Nicolas Mayer-Rossignol, je vous accueille. Vous êtes élu municipal de Rouen, ancien président de la région. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites de la gestion de cette crise? Parce que c'est véritablement une crise et on entend hein, les Rouennais le dire, y compris dans la rue ce soir. Comment on peut en être là?
D'abord, merci pour votre invitation. Il y a plusieurs choses à dire. C'est toujours difficile parce qu'il faut éviter de faire inutilement peur. Et en même temps, il faut nommer les choses et dire les choses. Je pense qu'il faut quand même rappeler une chose très simple mais très importante. C'est que la gestion de l'incendie lui-même a abouti à ce qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Et l'incendie ne s'est pas propagé à d'autres sites. Vous savez qu'il y a d'autres sites Céveso de seuil haut sur le territoire. Donc on a échappé à une catastrophe qui aurait pu être de beaucoup plus grande ampleur. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, le reste de la gestion de la crise a présenté, pour le dire aimablement, de nombreuses défaillances, et des défaillances très fortes. Par exemple, des réponses à des questions simples du style « Est-ce que je peux continuer à boire l'eau potable du robinet ? Est-ce qu'elle est encore potable ? Est-ce que je dois confiner mes enfants ? Ou est-ce qu'on doit quitter la ville ?» Moi, j'ai des collègues à mon boulot qui ont littéralement fui Rouen. Toute une série de questions comme ça qui n'ont pas reçu de réponse. Donc, clairement, il y a eu des manquements en termes de transparence. Et encore aujourd'hui, si on pose des questions simples du type « Qu'est-ce qui a brûlé ?» Qu'est-ce qui s'est retrouvé dans le nuage? En quelle quantité? Quelle dangerosité? Quels effets à court et long terme? On n'a pas des réponses. Donc on demande d'abord de la transparence. Ça, c'est le premier point.
La transparence, elle devrait arriver. On devrait avoir la liste des produits qui étaient stockés dans l'usine et la quantité incessamment sur le site de la préfecture, là, ce soir. Le préfet a pris la parole, mais de manière assez peu prolixe, j'ai envie de dire, pour l'instant. On est passé effectivement de pas de nocivité, puis à je ne sais pas. Le gouvernement, comme ça, a changé de ton en moins de 5 jours. Vous avez pris le relais comment, vous, les élus, sur le terrain, quand vous voyez vos administrés, les riverains, les Rouennais, comment vous faites, vous, alors?
C'est très difficile parce que, d'abord, on n'est pas scientifique, on n'est pas technicien, on n'est pas médecin en général. Et donc, comment vous voulez qu'un élu ait plus d'informations que ce que lui donne la préfecture? Moi, je ne suis pas là pour incriminer M. X ou Mme Y. Je dis simplement que, dans ce genre de crise, il faut avoir des réponses très claires, très net pour tout le monde pareil.
Or là, mais est-ce que vous aviez déjà alerté?
Je donne juste un exemple. Il y a par exemple eu certaines communes où les écoles ont fermé et des communes juste à côté où certaines écoles ont fermé. Voilà.
Donc ça, c'est pas possible. Il suffit de changer de trottoir pour qu'un établissement
en soit... Ça,
mais est-ce que vous aviez déjà alerté sur ce site Lubrizol? Plusieurs accidents, 2013, 2015, cette fois 2019. On le sait, avec aussi des restrictions budgétaires en 15 ans sur la surveillance de ces sites. Est-ce que vous aviez, vous, alerté? Est-ce que vous aviez pris acte de ce qui se passait et avec avec la mairie. Est-ce que vous étiez manifesté sur la dangerosité de ce site?
Bien sûr. D'abord, il ne faut pas faire d'amalgame trop rapide. Je comprends votre question. Mais à ce jour, on ne connaît pas les circonstances et les causes exactes qui ont conduit à cet incendie-là. Donc je ne peux pas vous dire, et personne ne peut dire aujourd'hui, en tout cas à notre connaissance, des faits. Moi, je parle sur des faits techniques. On ne sait pas si les causes sont les mêmes que d'autres accidents ou incidents qui ont eu lieu par le passé. Donc c'est difficile de dire que c'est la même chose. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que ce sont des sites Céveso seuil haut. Donc ce sont les sites qui font l'objet de la plus haute surveillance.
Sur le papier, en tout cas.
Et il est très clair, et ça je peux vous le confirmer, qu'il y a à la fois un suivi avec les autorités techniques, avec les élus locaux, avec les riverains. Il y a des comités aussi qui suivent tout ça. Mais on voit bien que dans la gestion de la crise derrière, il y a des défaillances.
On est avec Jean-Noël qui est ce soir à la manifestation, qui va jusqu'à la préfecture. Bonsoir Jean-Noël, merci de nous contacter sur Europe 1 à Rouen ce soir. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Oui, bonsoir. Bonsoir tout d'abord. Merci à vous de me recevoir sur votre antenne. Ce que je dis, moi, c'est complètement inacceptable. On a eu la vérité, et encore, on ne l'a même pas encore vraiment, cette vérité. On a eu un début de vérité 5 jours après la catastrophe. Personnellement, j'habite à 900 mètres du site. J'ai tout vu depuis mes fenêtres. Ça a pété à 2h48 du matin. Les hélicos étaient là pour commencer à prendre des relevés d'air, etc., à 4h du matin. Les sirènes se sont déclenchées qu'à 8h du matin. Ce qui fait que automatiquement, beaucoup de gens étaient venus sur Rouen pour travailler. Ça a bouché la 150, ça a fait des bouchons monstres. La police, bien sûr, a fait redoubler tout le monde. Du même coup, ces gens se sont retrouvés sous le panache de fumée. Donc beaucoup d'intoxication certainement pour tous ces gens-là. Et ensuite, on n'a pas la vérité. Monsieur le préfet a fait des analyses, mais complètement bidon. Il a fait des analyses qui correspondent à un gros contrôle technique d'un véhicule diesel, en gros, quoi. Donc effectivement, dans ces situations-là, on peut dire que la qualité de l'air est normale, ou du moins habituelle à Rouen. Mais Rouen n'est pas une poubelle, donc non, la qualité de l'air n'est pas habituelle à Rouen, monsieur le préfet, absolument pas, parce que vous n'avez pas fait les bonnes analyses. Si Madame Lepage... Oui,
on sera en ligne avec le préfet. Non, pardonnez-moi, mais on sera en ligne justement avec le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand, à 19h30. Merci beaucoup, Jean-Noël, qui participait donc à cette manifestation ce soir, toujours en cours, dans le cœur de Rouen. Merci beaucoup de nous avoir contactés. On est toujours ici, dans ces locaux de Paris-Normandie. On se retrouve dans une petite seconde avec nos invités.
Votre grand journal du soir en direct de Rouen avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy en direct de Rouen, dans les locaux de Paris-Normandie.
Et dans les locaux de Paris-Normandie, on va entendre le journal complet de Sébastien Krebs dans une petite seconde. Comme Clément Lefebvre est avec nous et que vous êtes professeur, vous avez exercé, on l'a dit, votre droit de retrait. Qu'est-ce que vous attendez pour reprendre? Est-ce que vous attendez le contenu de la liste des produits pour vous dire « allez, j'y retourne » ?
Ça fait partie des choses qu'on réclame, en effet. Aujourd'hui, on a été reçu par l'inspection d'académie, qui est notre autorité de tutelle. Ils ont pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de l'établissement, notamment de bien considérer qu'il était proche de l'usine, de par exemple étudier du fait qu'on puisse avoir des équipements de protection, qu'on puisse avoir des analyses. Donc c'est des choses qui peuvent éventuellement rassurer une partie des collègues. Malgré tout, il y a beaucoup d'inconnus qui subsistent, et moi je comprends tout à fait toutes celles et ceux qui sont toujours en droit de retrait demain. Moi-même, je me pose la question.
Et est-ce que simplement, quand vous avez eu les élèves en face de vous, vous leur avez expliqué, vous avez décidé de leur expliquer de votre propre chef?
Alors pour ma part, j'ai pas eu l'occasion d'avoir les élèves en face de moi, parce que dès lundi matin 8h, j'étais en droit d'entrée.
Merci beaucoup, merci à tous. On se retrouve évidemment, on continue cette discussion, on essaie de comprendre ce qui se passe à Rouen depuis 5 jours après cet incendie de l'usine Lubrizol. C'est l'heure de votre journal, Sébastien Krebs.
Votre grand journal du soir en édition spéciale à Rouen avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Il n'y a pas de risque lié à l'amiante, ce risque n'est pas avéré.
La préfecture de Seine-Maritime qui tente à nouveau de rassurer ce soir, opération transparence, pas de risque avéré à l'amiante, mais 160 fûts dans un état délicat qui reste à évacuer du site Lubrizol.
Et nous vous donnons ce soir tous les éléments, toutes les informations que nous recevons, bien entendu au fur et à mesure.
Et les agriculteurs sont particulièrement inquiets, 1800 exploitants touchés par les fumées, les résidus du lait qui doit être jeté, interdit à la commercialisation.
Nous irons aussi à Hong Kong où pour la première fois, Sébastien, la police ouvre le feu à balles réelles contre les manifestants.
Un mot de la tendance météo, Anissa?
Eh bien, demain, le matin reste nuageux et pluvieux. Le soleil fait son grand retour par l'ouest demain après-midi.
Europe 1.
Les Rouennais sont dans la rue ce soir, tout près d'ici, dans le centre-ville. Ils sont plusieurs centaines, certains avec des masques. Et nous suivons depuis le début de cette soirée, cette manifestation. Ils réclament la vérité sur la qualité de l'air, alors que les odeurs d'hydrocarbures très incommodantes persistent dans toute l'agglomération. On l'a senti.
Et pendant ce temps, le préfet de Seine-Maritime a tenu il y a quelques minutes une conférence de presse. Virginie Salmen, vous l'avez suivi. Quels sont les nouveaux éléments dont nous disposons ce soir ?
Eh bien, on attend toujours cette liste des produits toxiques et des volumes de ces produits qui n'a toujours pas été mise en ligne sur le site de la préfecture. Alors, l'entourage du préfet me dit qu'elle est encore en cours de finalisation. Voilà, elle devrait arriver dans les minutes qui viennent avec des fiches techniques pour chaque produit pour qu'on comprenne la dangerosité potentielle et de quoi il s'agit. Alors, le préfet a parlé par ailleurs de cette odeur qui règne encore ici à Rouen, une odeur incommodante et anxiogène, a-t-il dit. On commence à avoir quelques éléments de réponse. Deux hypothèses, c'est peut-être un mélange d'eau et d'huile qui a macéré entre les deux hangars de l'usine Lubrizol. Ce mélange devrait être pompé d'ici à la fin de la semaine. Et puis il y a aussi 160 fûts qui ont chauffé pendant l'incendie. Et donc deux substances se sont échappées de ces fûts, du mercaptan et puis du H2S. Voilà, c'est peut-être ça, une des deux hypothèses de l'odeur qui règne encore ici cinq jours après. On attend dans la soirée des résultats pour la dioxine. On a déjà eu quelques éléments de résultats, pas encore consolidés, mais sur l'amiante. Dans l'air, là, il n'y a pas d'inquiétude pour l'amiante. En revanche, des morceaux de fibrociment, donc des morceaux de pierre d'amiante, ont été retrouvés dans les jardins de la ville de Rouen.
Virginie Salmen depuis la préfecture de Rouen, et concernant l'enquête sur l'origine de cet incendie de l'usine Lubrizol, elle est désormais confiée au pôle santé publique du parquet de Paris. Le parquet de Rouen s'est dessaisi, le parquet qui précise que le périmètre de départ du feu commence à être identifié sans qu'on puisse encore préciser avec certitude à quel endroit le sinistre a débuté.
Et puis nous voulions donner la parole ce soir aux agriculteurs qui sont eux aussi très inquiets. Un d'entre eux viendra nous rejoindre d'ailleurs à 19h30.
Des éleveurs, les cultivateurs, au total, ils sont 1800 à être touchés, affectés par les suies qui sont tombées sur leurs exploitations jusqu'à des dizaines de kilomètres d'ici. Résultat des mesures de précaution, élevage confiné, interdiction de récolter. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes rendu dans une exploitation où il est interdit de vendre le lait. On ne sait pas trop quoi en faire du coup.
Oui, parce que d'un côté, il y a ce qu'affirme le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Il assure aux producteurs laitiers qu'ils ne doivent pas jeter leur lait, qu'il y a des entreprises chargées de venir le chercher. Mais en pratique, c'est différent. Emmanuel Legros élève des vaches à Isnoville, c'est à une dizaine de kilomètres de Rouen. Depuis jeudi dernier, il a déjà jeté 4000 litres. Et en dehors du manque à gagner, il n'est pas du tout sûr que ce soit une bonne idée.
Il a été mis dans la fosse à lisière, avec les déjections. Et la consigne qui a été donnée, c'est de les pendre sur des parcelles qui figurent dans nos îlots, des parcelles épandables. Sauf que ce n'est pas logique, parce que si vraiment on a peur que le lait soit contaminé, il aurait fallu que ce lait-là soit ramassé par des citernes à part et mis en destruction. Pour moi, le système, il n'est pas verrouillé. Il faut que le lait soit enlevé des fermes. On nous dit de mettre ça dans les fosses, donc voilà, on dilue du lait dans des fosses. Ce qui n'est pas logique.
Le problème, c'est que pour le moment, aucune des principales entreprises chargées de collecter le lait n'est passée. Danone, Lactalis, Sodiaal, personne. Comme lui donc, certains producteurs ont déjà répandu le lait sur leurs terres. Et s'il est contaminé, les sols et les cultures risquent de le devenir.
Jean-Sébastien Soldaini, près de Rouen pour Europe 1.
Et le ministre de l'Agriculture qui était ici hier et qui a rencontré des exploitants a promis des indemnisations très rapides, des avances de trésorerie dans les 10 jours et surtout des analyses sous 2 jours pour savoir si ces produits sont commercialisables.
Et on continue d'en parler ensemble ici jusqu'à 20h à Rouen avec des médecins, des agriculteurs, des associations. On va vous donner ce soir toutes les informations les plus à jour possibles. Bien entendu, on échange avec vous. Soyez là au 39-21, on vous attend. Édition spéciale sur Europe 1.
Il est 19h05, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
L'actualité judiciaire ce soir, c'est Nicolas Sarkozy qui ne pourra pas échapper à un procès Sébastien correctionnel dans l'affaire Big Malion.
Oui, la Cour de cassation a rejeté aujourd'hui l'ultime recours déposé par l'ancien président. Nicolas Sarkozy sera jugé pour le financement illégal de sa campagne présidentielle en 2012 pour avoir excédé le budget autorisé.
Et puis la colère de deux pères ce soir, ça se passe à Marseille. On est 2 ans jour pour jour après la mort de leurs deux filles, Laura et Morane, poignardées sur le parvis de la gare Saint-Charles. Elles avaient 20 ans.
Oui, vous vous en souvenez peut-être, assassinat revendiqué à l'époque par le groupe groupe État islamique est commis par un Tunisien en situation irrégulière, ce qui avait déclenché une crise. Le préfet du Rhône limogé car l'agresseur avait été arrêté la veille pour un vol, mais relâché. Les parents estiment que l'État est fautif, qu'il aurait dû être placé en rétention. Mais aujourd'hui, un rapport administratif écarte toute responsabilité. Et c'est un coup de massue pour les deux pères des victimes que Nathalie Chevance a rencontrés.
C'est insupportable, ça reste insupportable, même 2 ans après. Nos filles sont mortes, assassinées. Il faut plus que ça arrive.
Au-delà du chagrin, c'est la colère qui est en train de monter pour les parents de Morane et Laura. Ils ont pris connaissance du dernier rapport remis à la cour administrative. Il est écrit que les dysfonctionnements commis par les services de la préfecture du Rhône, qui n'avaient personne sous la main pour signer le placement en rétention de l'individu qui va poignarder les deux jeunes filles le lendemain de sa remise en liberté, n'ont finalement aucun lien avec l'acte terroriste. Et pourtant, peu après l'attentat, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, disait exactement l'inverse, comme le rappelle Dominique Harel, le père de Morane.
Aujourd'hui, on a l'impression que l'État revient en arrière sur ses propos. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'il n'y a pas de cause entre ce qui s'est passé le samedi et ce qui s'est passé le dimanche. Et on ne peut pas dire ça par rapport à tous les dysfonctionnements graves qui ont été notés dans le rapport et tout ce qui a été expliqué depuis. Ce n'est pas possible pour nos filles qu'elles soient mortes et qu'il n'y ait pas de responsable. On essaye vraiment de réfréner la colère. Mais là, il y a des choses qui ne sont pas admissibles.
Deux familles qui se battent pour que la responsabilité de l'État soit reconnue devant la justice, pour qu'une telle erreur administrative ne se reproduise plus jamais. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Un blessé par balle parmi les manifestants. Nouvelle journée d'affrontement à Hong Kong.
Et cela le jour où Pékin célébrait par un défilé de 15 000 soldats les 70 ans du régime communiste. Des dizaines de milliers de militants pro-démocratie sont redescendus dans les rues aujourd'hui de l'ancienne colonie britannique. Le récit en Chine de notre correspondant Sébastien Lebelzik.
Pour la première fois depuis le début des manifestations à Hong Kong, la police a ouvert le feu à balles réelles aujourd'hui. Un manifestant a été blessé au ventre et se trouve toujours dans un état jugé critique. Ce 1er octobre a été surnommé « Journée de la colère » à Hong Kong. Elle correspond au 70e anniversaire de la Chine communiste. Des manifestations extrêmement violentes opposent toujours cette nuit des milliers de personnes avec la police. On parle de centaines d'arrestations ce soir, mais la situation est loin d'être apaisée puisque certains manifestants ont dressé des barricades dans le quartier de North Point, un quartier connu pour abriter une importante communauté venue de Chine continentale et qui avait déjà vu ces dernières semaines des affrontements violents opposés en pleine rue, les triades, les mafias chinoises et ces manifestants pro-démocrates. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et puis en Tunisie, la justice refuse à nouveau de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, moins de 2 semaines avant le second tour de l'élection présidentielle. Nouveau recours rejeté aujourd'hui par la cour d'appel de Tunis. Nabil Karoui, homme d'affaires, qui est en prison pour blanchiment et qui crie au procès politique.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Vous êtes toujours avec nous à Rouen, donc on vous retrouve à 19h30 dans ces locaux de Paris-Normandie avec la vue sur la Seine, vue assez dégagée ce soir, une éclaircie. On apprécie d'être là dans ces locaux pour vous faire vivre évidemment cet événement, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. On est ensemble jusqu'à 20h.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Anissa, ici le ciel s'éclaircit. Chez vous, ça se passe comment au niveau des températures?
Alors, les températures demain, elles baissent légèrement, Nathalie, à cause de cette perturbation qui est en train de traverser la France. Il va faire en effet beaucoup plus frais demain. Demain après-midi, on aura 14 degrés à Cherbourg et Lille. Nous aurons 15 à Caen, Saint-Etienne et Rouen. 16 degrés à Paris, 18 à Angoulême et Quimper, 20 degrés à Valence et Biarritz. 25 à Nice et Montpellier, 26 à Nîmes, ça baisse bien donc. Demain, le ciel reste nuageux avec des averses sur une très grande partie de la France le matin. Seul le sud-est se réveille sous le soleil. Au fil des heures, cette perturbation, elle se décale vers l'est. Et demain après-midi, au nord, dans les Ardennes, en Normandie, sur le bassin parisien, le centre, les pays de la Loire, la Bretagne, l'Aquitaine, et bien là, c'est le grand retour du soleil demain après-midi. En Alsace, Franche-Comté, sur le massif central et les Alpes, même sur les Cévennes et le Languedoc-Roussillon, eh bien là, le ciel reste gris avec des averses locales. Au bord de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane se lèvent et soufflent fort, même demain jusqu'à 80 km/h. Vous le disiez, une éclaircie actuellement dans le ciel rouennais. Eh bien, sachez que nous allons vers une amélioration à Rouen. Quelques averses encore possibles cette nuit, mais demain, le soleil signe son grand retour l'après-midi.
Europe 1. Votre grand journal du soir en direct de Rouen avec Nathalie Lévy.
Et on retrouve l'interview politique comme chaque soir à cette heure-ci. David Doucan, vous êtes dans les studios parisiens d'Europe 1 et il est avec vous, Hervé Morin, dans quelques secondes.
Oui, absolument, Hervé Morin, le président de la région Normandie, président aussi des régions de France. Ses administrés sont inquiets, on en parle sur Europe 1 depuis ce matin. Pourra-t-il les rassurer ? Quelle vision a-t-il de la gestion de l'État de cette catastrophe ? On lui posera la question.
Et l'interview politique, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy.
David Doucan, depuis Paris, ce soir avec votre invité, durant cette spéciale où nous sommes installés, nous, à Rouen, Hervé Morin est avec vous, président des régions de France et président de la région Normandie.
Bonsoir Hervé Morin.
Bonsoir.
Votre région vit dans l'angoisse depuis 5 jours, depuis cet incendie très spectaculaire de l'usine Lubrizol. Et bon nombre de nos concitoyens à Rouen et dans l'agglomération sont dans une forme de défiance. Ils ne croient pas les autorités, ni le préfet, ni le Premier ministre, lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas d'inquiétude, que les fumées, les odeurs ne sont pas nocives. Est-ce qu'ils ont raison, ces Français, de ne pas croire les autorités ?
On est face à un phénomène qu'on découvre chaque année un peu plus, c'est la défiance totale à l'égard des autorités, de tout ce qui représente de près ou de loin le pouvoir. En réalité, c'est ça le fond de la question. Qu'un préfet puisse cacher des analyses, qu'un préfet puisse faire des erreurs, oui, mais qu'un préfet puisse cacher des analyses, non.
Des erreurs dans ce cas précis, si vous pensez que c'est possible, sur l'affaire Lubrizol ?
J'ai pas le détail des éléments techniques. Je l'ai tous les jours au téléphone, au moins 2 fois par jour. J'ai eu les membres du gouvernement régulièrement avec un son d'interrogation. Je prends un exemple simple. Les matières entreposées. J'ai posé la question au préfet, j'ai dit, mais pourquoi vous ne sortez pas la liste des matières à entreposer ?
Ça doit être le cas dans les prochaines minutes, normalement.
Alors maintenant, ça va l'être.
On les attend
toujours. Oui, mais moi, je suis tenu à la réglementation, à une circulaire interministérielle qui fait qu'on n'a pas le droit, dans les sites Céveso, compte tenu des risques terroristes, de donner la liste des matières.
Alors,
bon, tant mieux, le Premier ministre a décidé de le faire.
Voilà.
Je prends un deuxième exemple qui m'a beaucoup frappé. L'incendie a commencé durant la nuit. Et l'alerte à la population a commencé par les radios, comme la procédure souvent le prévoit. Puis après, il y a eu quelques alarmes qui ont été déclenchées dans un centre de quartier. Très bien. Et tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi ? Enfin, 3 heures, 7h30, les populations sont simplement informées. Pourquoi ? Il me dit, mais pourquoi ? Parce que quand les pompiers ont fait les analyses des fumées, ils ont constaté qu'on était sur le niveau où il fallait simplement mettre les gens à l'abri, pas de confinement, pas d'évacuation, et que j'ai pensé qu'à 3h ou à 3h30 du matin, les gens, a priori, dormaient, pour la plupart d'entre eux. Et donc, en clair, plutôt que d'affoler la population, j'ai considéré que les conditions étaient réunies et qu'on a alerté la population, etc. Sauf qu'au bout du compte, comme il n'y a pas d'information immédiate, comme il n'y a pas d'information qui est largement diffusée par les réseaux sociaux, par tous les moyens de communication, ce qui se passe, c'est que ce que retiennent les gens, c'est le fait qu'on a pris du temps avant de les informer.
Et ça sème le doute.
Et donc, le premier enseignement de cette histoire, c'est qu'il faut des systèmes de communication instantanés, immédiats, réactifs, capables même d'expliquer pourquoi on ne donne pas la réponse. Parce que vous diffusez, vous avez après l'inquiétude, vous avez toutes les fake news, parce qu'on a quand même eu des fake news absolument ahurissantes, avec des faux de l'ARS des Hauts-de-France et de la préfecture des Hauts-de-France.
Une explosion en vidéo qui, en fait, était en Chine en 2015.
Enfin, bref, des animaux dont j'ai vu dans la presse, des animaux morts qui étaient issus de d'ailleurs. Enfin, bref.
Mais on a l'impression que la communication n'a pas été maîtrisée. Quand, par exemple, Pierre-André Durand, c'est le préfet de Seine-Maritime, quelques heures après l'incendie, pendant l'incendie, dit pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas, les fumées ne sont pas nocives. C'est très rapide. Les concitoyens se disent forcément, ils vont vite.
Je suis pas son avocat, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas de dysfonctionnements divers et variés. J'ai rencontré les syndicats de police dimanche matin. Les policiers disent, nous, on a été amenés à fermer les voies d'accès à Lubrizol. Pas de matériel, pas de stock et d'équipement nous permettant d'arriver près d'un incendie de ce genre. Moi, j'y ai passé 2 heures le jeudi matin avec Christophe Castaner. Très clairement, avoir un masque pour se protéger des émanations, ça aurait été la moindre des choses, quoi. Mais sauf que c'est pas prévu par la police.
Il n'y a pas les équipements. Deuxième élément,
j'ai rencontré les représentants des syndicats du transport de Théor et du métro. Ils disent, mais on n'a pas eu les consignes. Alors nous, on était entre Se dire qu'il fallait qu'on fasse notre mission de service public parce qu'il fallait être en capacité de transporter les personnes qui devaient repartir du travail, etc. Mais en même temps, on nous disait, on n'a pas une communication. Troisième élément, j'en viens sur des éléments de fond aussi.
Allez-y. Il faut qu'on avance.
Ouais, pardon. Mais c'est intéressant de décortiquer tous les dysfonctionnements divers et variés. Troisième élément, quand vous avez un feu et un incendie et des nuages de cette puissance-là, ça ne concerne pas que Rouen et la métropole rouennaise. C'est dimanche que les Hauts-de-France ont décidé de prendre des mesures concernant les risques de retomber sur... comme si on avait eu... comme si le nuage n'était pas allé au-delà de la Normandie.
Oui. Voyez, donc, ça rappelle une autre époque en 86.
Quatrième point, on a besoin... Non mais parce qu'il faudra...
Il faut qu'on avance, allez-y.
Quatrième point, très clairement, il faut qu'on soit sur de l'éducation, de la pédagogie dans des sites et des agglomérations où il y a des sites Céveso. Parce que il y a des pays qui le font très bien, par exemple sur les risques sismiques, en mettant en place des procédures, avec régulièrement, en quelque sorte, la construction de modèles. En France n'est pas fait.
Est-ce qu'il faut, Hervé Morin, une commission d'enquête parlementaire ?
Oui, il faut une commission d'enquête parlementaire. Moi, je l'ai dit à Gérard Larcher ce matin, qui m'a posé la question, puisque j'étais au Congrès des régions de France à Bordeaux, et d'où ma présence à Paris ce soir. Gérard Larcher m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « Il en faut une ». Parce qu'il faut que la France puisse tirer les enseignements d'un accident industriel qui, Dieu merci, sont des accidents rares, mais qui malheureusement existent.
20% des terres agricoles en Seine-Maritime touchées par des restrictions. Ça veut dire que les exploitants, c'est 206 exploitations qui sont concernées.
J'ai rencontré les agriculteurs dimanche après-midi.
Vendre leur production pour l'instant. C'est bloqué, c'est figé. Oui. Le ministre de l'Agriculture a dit qu'ils seront indemnisés. Qu'est-ce que peut faire la région pour eux, Hervé?
Eh bien, moi j'ai dit aux agriculteurs, parce que souvent l'État met beaucoup de temps à payer. C'est-à-dire qu'ils décident, mais le système est long. Ouais. J'ai un agriculteur, je ferai prendre une délibération au Conseil régional la semaine prochaine, permettant de faire des avances de trésorerie que nous, on peut débloquer très rapidement pour éviter des problématiques.
Parce vous faites la jonction.
On fera la jonction le temps que paie. Mais il n'y a pas simplement les agriculteurs. Il y a aussi éventuellement l'industrie agroalimentaire, ceux qui sont sous-traitants des agriculteurs, parce que ce n'est pas simplement la collecte du lait. C'est aussi le fait qu'on ne peut plus ramasser les betteraves, récolter les betteraves, récolter le maïs. Ce sont aussi l'ensemble des maraîchers qui sont concernés. Et donc, nous, on mettra en place les lignes de trésorerie permettant aux personnes de passer la période.
Hervé Morin, vous êtes aussi le président de Régions de France. Vous tenez votre congrès Vous venez de le finir. Le Premier ministre, ce matin, a tenu un discours. Il a effectué quelques annonces. Vous nous en direz un mot. Mais d'abord, question. Le contribuable a l'impression de s'être fait avoir. Lorsqu'on a fait la fusion des régions en 2016, André Valigny, le ministre de l'époque, nous a dit 10 milliards d'économies.
Oui, mais lui, il a
vous
dit
inquiétez
des...
pas.
Lui, il a dit des conneries. Lui, c'est pas pareil. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Ah, c'est le ministre qui a dit des bêtises.
Non, mais 10 milliards. Attendez.
Je n'utilise pas le même vocabulaire.
Pardon, 10 milliards. Vous savez quels sont les budgets cumulés des régions ? 35 milliards. Vous pensez qu'on pourrait faire un tiers d'économies ? Enfin, il faut rester sérieux, quoi. Deuxième élément. Est-ce que vous connaissez, vous, des organisations, quand elles mènent des fusions de ce genre, qui sont capables de générer des économies immédiatement? Toutes, d'abord, ce sont des coûts.
Donc,
sont des entreprises.
Vous
mais on
dites,
fait des économies. On a eu un énorme effort, une dépense importante, qui a été l'alignement des régimes indemnitaires. Prenons le cas de la Normandie. Les Hauts-Normands étaient mieux payés que les Bas-Normands.
C'est des fonctionnaires territoriaux.
Les régimes, c'est bien ce que je dis.
Oui, non, les gens régimes indemnitaires, ils savent pas ce que c'est.
Les salaires des fonctionnaires territoriaux, des agents des lycées, pour faire court. Bien, puisque c'est l'essentiel de la fonction publique dans les régions. On a donc eu un effort de 7 millions d'euros pour faire en sorte que les Bas-Normands soient payés comme les Hauts-Normands. Ouais. Bien. Mais en même temps, on a engagé toute une série d'éléments qui sont facteurs d'économie. Les assurances. On fait rien que sur les assurances, 1 million d'euros d'économie, parce qu'on est sur des volumes plus importants. Sur les achats d'énergie pour nos lycées, on a entre 7 et 8 millions d'euros d'économie. J'ai repassé tout le monde aux 1607 heures. Donc, on pourra supprimer un certain nombre de postes.
Donc, vous dites que ça va venir.
Non, mais ça y est, ça vient, là. Bon. On commence à avoir des économies.
La Cour des comptes s'en rendra compte un peu plus tard.
La Cour des comptes, son analyse, c'est sur 2016-2018.
Hervé Morin, président de la région Normandie, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez pointé plusieurs dysfonctionnements. Vous avez constaté des dysfonctionnements dans l'attitude de l'État depuis la catastrophe de jeudi dernier.
Mais c'est pas simplement celui-ci. C'est qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut revoir globalement et généralement.
Le message est passé.
La suite de votre grand journal du soir en direct de Rouen avec vous, Nathalie Lévy.
Et si vous nous rejoignez, effectivement, nous sommes là pendant 2 heures et demain d'ailleurs dès 6 heures dans la matinale de Mathieu Béliard jusqu'à 9 heures pour vous faire vivre la situation des Rouennais, pour sentir le pouls des Rouennais, pour essayer de comprendre ce qui se passe à Rouen et dans cette agglomération 5 jours après le spectaculaire incendie qui a ravagé l'usine Lubrizol de Rouen. On attend toujours la liste des produits qui étaient stockés dans l'usine et la quantité. On sera en ligne tout à l'heure avec le préfet Pierre-André Durand, le préfet de la Seine-Maritime. En attendant, tous nos interlocuteurs sont là, nous reçoivent notamment dans les studios de Paris-Normandie et on est là évidemment ensemble pour comprendre, décrypter, poser les questions avec vous aussi les auditeurs au 3921.
Et vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, on lit tous vos messages, vos réactions, vos témoignages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir en direct de Rouen dans les locaux du journal Paris-Normandie, c'est avec vous Nathalie Lévy.
Et oui, en direct de Rouen, avec les questions des Rouennais, beaucoup de doutes, beaucoup s'interrogent, s'inquiètent encore pour leur santé. On va tenter évidemment de comprendre ce soir, d'y voir plus clair. On est avec Richard qui nous appelle. Vous êtes, vous, Richard, à 20 km de Rouen, c'est ça? Et vous avez écouté attentivement.
Oui, 25, oui. Bonjour, bonsoir.
Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez écouté attentivement.
Attentivement, les propos de Monsieur Morin, exactement, oui. Moi, je pense qu'il y a eu aussi, je suis d'accord avec lui, un dysfonctionnement. Il y a eu et il y a toujours un dysfonctionnement, puisqu'à l'heure actuelle, on est toujours dans, entre guillemets, les spectatives, quoi. On attend, je ne sais pas si vous avez les résultats. Nous, moi, j'étais voir sur le site, mais il n'y a rien. Sur les informations régionales, bon, on a entendu le préfet, on a entendu la responsable de l'entreprise, etc., nous rassurer, bien sûr, mais on n'est pas du tout rassurés.
On attend en effet les résultats, hein, comme vous. On aurait bien voulu donner cette liste des produits et l'analyser avec vous, la commenter ce soir pour éclairer les Rouennais et pas seulement d'ailleurs. Toujours pas de communication de ce côté-là. On attend à la fois la liste, à la fois les quantités. On entend donc, Richard, ce que vous nous dites encore ce soir. Merci de nous appeler. Et vous êtes très nombreux ce soir à nous contacter au 3921. On est autour de ce plateau, dans ce studio, avec Nicolas Maillard-Rossignol. Vous êtes élu municipal de Rouen. On accueille également Bruno Le Dru, bonsoir, vous êtes producteur laitier, vous êtes vous à 10 km au nord de Rouen. Comment ça se passe pour vous jusqu'à présent? Je crois que vous avez 80 vaches. Comment vous vivez avec le lait de ces vaches depuis 5 jours? Qu'est-ce que vous faites?
Bien, bonjour. Clairement, depuis 5 jours, je traie mes vaches et je jette le lait derrière.
Vous jetez tout?
Voilà, je jette tout parce qu'on est censé livrer des produits sains à nos consommateurs. Aujourd'hui, on est en attente des analyses. Et pour éviter tout risque, l'administration nous a dit de jeter le lait. Qui...
Jusqu'à quand? Elle vous a donné une date?
Non, on n'a pas de date. Tant qu'on ne sera pas sûr, on ne donnera pas mon lait aux gens. Et même moi qui suis producteur de lait, je peux comprendre ça. Parce que
vous travaillez en conscience,
pas un
évidemment.
Évidemment. Moi,
et vous, c'est un manque à gagner considérable, j'imagine. On est autour de combien?
Je suis autour de 800 à 900 euros par jour. De chiffre d'affaires au moins.
Depuis samedi.
Depuis vendredi. Donc voilà, bon, après, il faut savoir que je suis payé tous les mois, donc je serai payé le 15 du mois. Pour l'instant, je n'ai pas encore perdu. Si on me paye le 15 du mois, ça ira.
Une question avec vous rapidement, Nicolas Maillard-Rossignol, vous vouliez dire?
Oui, mais là on voit un bon exemple. Il ne suffit pas juste de transparence, il faut des mesures concrètes pour les gens, parce qu'il y a un préjudice tout de suite, et là il faut ouvrir les droits à l'assurance. Nous on demande que l'État, ça c'est l'État, déclare l'état de catastrophe technologique, parce que ça ouvre les droits à l'assurance. Il faut que le préfet utilise son pouvoir de police environnementale pour que les réparations soient faites. Et puis j'ajoute, il y a un risque, il y a un danger de dégradation de la réputation. Qui va acheter des produits agricoles de Normandie demain? Et quand je dis demain, c'est dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Vous vous rendez compte du préjudice causé là? Ce préjudice, il a un coût. Et Rouen et la Normandie ne sont pas la poubelle de la France. Donc nous, les élus locaux, nous nous battons pour que ce préjudice, eh bien, il soit apporté une réparation à ce préjudice.
Alors le ministre Didier Guillaume est venu hier à Rouen dire que vous serez indemnisé sous 10 jours. J'imagine que ça vous laisse... Voilà, je vois votre sourire, évidemment. Vous savez quoi? On va pouvoir en discuter, en débattre même avec le préfet de la Seine-Maritime, Pierre-André Durand, sera avec nous en direct sur Europe 1, installé à Rouen ce soir exceptionnellement, dans 2 minutes.
Votre grand journal du soir en édition spéciale, en direct de Rouen, c'est avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir en direct de Rouen, Nathalie Lévy.
Cette édition spéciale qui se poursuit jusqu'à 20h avec dans quelques secondes le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, qui répondra à nos questions et à vous également, les Rouennais qui êtes autour de ce studio là ce soir en direct, et vous qui pouvez nous contacter au 3921. D'abord l'info, le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Et la liste des produits qui ont brûlé dans l'usine Lubrizol doit être communiquée ce soir. Ce n'est pas encore le cas à ce stade. La préfecture a simplement annoncé que les premières analyses écartent les risques liés à l'amiante et que 160 fûts sont toujours sur le site dans un état délicat. L'enquête sur les causes de l'incendie est désormais confiée au pôle de santé publique du parquet de Paris. À retenir dans l'actualité aussi ce soir, Nicolas Sarkozy bientôt jugé en correctionnel dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne présidentielle en 2012. Thomas Cook, France, placé en redressement judiciaire, près de 800 salariés concernés. Et puis une nouvelle soirée de Ligue des Champions, le PSG attendu dans le volcan de Galatasaray à Istanbul, coup d'envoi 21h. C'est à suivre en fil rouge sur Europe 1.
Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve demain à Paris, bien sûr. Belle soirée à vous. Anissa.
Une amélioration arrive par l'Ouest, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Alors demain, il pleut encore sur une grande partie de la France. Seul le sud-est est au sec le matin. L'après-midi, le soleil est de retour par l'Ouest. Les températures, elles sont en légère baisse, 9 à 18 le matin, 13 à 26 demain après-midi. Il fera 16 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 24 à Marseille. Votre grand journal du soir en direct de Rouen dans les locaux de Paris Normandie, c'est jusqu'à 20h avec vous Nathalie Lévy et avec votre invité, vous recevez le préfet de Seine-Maritime ce soir.
Oui, événement ce soir, hein, jusqu'à 20h encore pour poser toutes vos questions, pour essayer de comprendre ce qui se passe à Rouen dans cette agglomération depuis 5 jours maintenant, après l'incendie de l'usine Lubrizol. On est avec nos invités et ce soir, le préfet de Seine-Maritime qui a communiqué il y a quelques minutes encore, Pierre-André Durand, nous répond en direct. Bonsoir à vous, merci d'être au micro d'Europe 1 ce soir. Pierre-André Bonsoir. Durand. En 1986, la France apprenait que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière. Aujourd'hui, ce que vous reprochent les habitants, et je crois qu'ils sont encore sous vos fenêtres ce soir en train de manifester, c'est de leur dire que la dangerosité de ce panache de fumée s'est arrêtée au gris de l'usine.
Non, absolument pas. Toute fumée d'incendie est évidemment polluante. Il n'y a pas d'ambiguïté à cet égard. Pour autant, à partir des analyses effectuées par les sapeurs-pompiers, des mesures adaptées ont été prises immédiatement. Il a été notamment recommandé aux personnes en fragilité d'éviter des déplacements inutiles et de ne pas sortir. Pour le reste, la vie normale effectivement continuait, à l'exception d'un périmètre de 300 mètres, porté ensuite à 500 mètres autour de l'usine, où là, il y a eu un confinement.
Effectivement, Pierre-André Durand, vous avez dit très vite, vous avez rassuré dès les premières heures post-incendie, alors que seuls quelques tests avaient été réalisés. Vous avez dit, allons-y, continuez à vivre et à travailler normalement.
Non, ça ne se passe pas exactement comme ça.
Est-ce que vous regrettez d'avoir été si vite en besogne, Pierre-André Durand, parce qu'aujourd'hui, les Rouennais sont extrêmement défiants. Ils sont dans le questionnement, mais ils sont aussi dans la défiance. Est-ce que vous regrettez?
Non, alors ça ne se passe pas comme ça. Moi, je comprends parfaitement la défiance, l'inquiétude, notamment par le caractère très impressionnant de ce sinistre, d'une part, et par le fait qu'il est aggravé par la persistance d'une odeur qui est extrêmement déplaisante. Bon, il faut quand même bien voir ce qu'était l'ampleur de ce sinistre. La mobilisation des sapeurs-pompiers, nous étions complètement mobilisés sur ce foyer, avec, on l'oublie, deux autres établissements Céveso attenants qu'il a fallu sécuriser. Donc vraiment notre obsession, c'était d'éviter le suraccident et d'être tout entier mobilisé sur ce point.
Ensuite, mais vous parlez bien de l'ampleur de ce sinistre, vous le rappelez
tout
là ce soir
fait.
À notre micro
tout
sur Europe 1.
Fait. Mais tout
et
à fait,
après seulement quelques tests préliminaires, écoutez, vous dites aux Rouennais, allons-y, allez travailler, vivez normalement. Est-ce que vous n'avez pas été trop vite en besogne?
Je ne suis pas de cet avis, donc je vous réponds, la réponse est non. J'ai clairement suivi, à partir des éléments techniques dont je disposais par les sapeurs-pompiers, pris des mesures d'ailleurs de recommandation pour les personnes fragiles, d'une part, et d'autre part pour les écoles qui étaient les plus en proximité avec le faisceau, enfin le nuage. Je précise que la préfecture elle-même, d'ailleurs, je l'ai évidemment vu, ce nuage, puisqu'il est passé au-dessus de la préfecture. J'ajoute que le soir même, entre 15h et 17h, les périmètres de confinement ont été levés. Les sapeurs-pompiers ont effectué un travail absolument remarquable, moi je tiens vraiment à le souligner, et par leur professionnalisme, nous sommes parvenus à maîtriser cela.
Alors aujourd'hui, Pierre-André Durand, pardonnez-moi,
il y a un besoin d'information.
Bah oui, c'est effectivement ce que vous demande la population et pas seulement les élus également.
Absolument.
D'ailleurs, on est là dans ce studio Paris-Normandie avec un certain nombre d'habitants de Rouen, élus aussi, et l'un d'entre eux va vous poser une question, Nicolas Maillard-Rossignol.
Bonsoir, Monsieur le Préfet. Je me fais le relais de questions simples de nos concitoyens. Est-ce que vous pouvez vous engager à mettre en place un suivi médical avec un registre d'un court et long terme des personnes qui ont inhalé ces fumées, tout simplement pour vérifier que, y compris sur le long terme, il n'y a pas de risque à la santé. Est-ce que vous pouvez vous engager, deuxième point, à faire valoir vos prérogatives de police de l'environnement pour mettre en place la procédure prévue à l'article 161 du Code de l'environnement de façon à évaluer les dommages et à entamer des réparations par des mesures dont vous avez le pouvoir? Et enfin, est-ce que l'État va déclarer cette catastrophe comme une catastrophe nationale, une catastrophe technologique, ouvrant ainsi les droits à l'assurance? Ce sont trois questions très simples que se posent tous les Normands, tous les Rouennais et bien au-delà, et qui emportent des conséquences très importantes.
Alors, Monsieur le Préfet va nous répondre.
Alors, sur la question du suivi et psychologique et médical qui est souhaité, il n'y a aucune difficulté. L'ARS est en train d'y travailler. Donc, parce qu'il y a cette inquiétude, évidemment que nous sommes tout à fait favorables à cette orientation, d'une part. D'autre part, sur les mesures à imposer à l'exploitant, il est évident que nous allons les lui imposer. Ça a même d'ores et déjà commencé, puisque j'ai pris un arrêté suspendant intégralement l'activité du site. Je rappelle que c'était un site de 14 hectares.
Je parle du dédommagement,
plus d'un hectare
et réparation.
Et demi qui a brûlé.
Tout cela a un coût,
reste,
monsieur le préfet. On attend
oui,
les dédommagements,
je
c'est
suis
un coût.
Entièrement,
ici, il y a des agriculteurs, il y a des commerces. Non mais attendez,
je suis entièrement d'accord là-dessus.
D'affaires.
Absolument, absolument. Le gouvernement a été très clair à cet égard. Vous évoquez les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture était hier dans le département, a été extrêmement précis sur ce point avec un système de dédommagement qui est en train de se mettre en place. Donc il n'y a pas d'ambiguïté à cet égard. L'exploitant devra payer ce qu'il doit. C'est évident. Et nous activerons les textes nécessaires. Alors il y a aussi le sujet quand même, il faut aussi accepter de l'entendre, de l'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Rouen et l'enquête administrative qui est d'ores et déjà engagée. Je n'ai en revanche pas encore, je suis transparent avec vous, je n'ai pas encore les éléments sur le point que vous évoquez concernant
la catastrophe.
Votre dernier point.
Monsieur le Préfet, encore deux questions. Une question de Thierry Rabillet, rédacteur en chef du quotidien Paris-Normandie.
Oui, votre conférence de presse s'est tenue à 17h30. À quelle heure les résultats seront en ligne sur votre site internet de la préfecture?
La liste
Alors,
des produits, bien sûr, et la quantité.
Ils le seront d'une minute à l'autre. Alors, je vous explique là aussi pourquoi n'imagine pas de mauvaises choses, pourquoi nous prenons un petit peu de temps. Parce que, ainsi que l'a indiqué le Premier ministre devant la représentation nationale, nous tenons à publier l'intégralité des produits, mais au-delà de cette liste, nous publions aussi les 479 fiches de sécurité correspondant à chacun de ces produits. Elles précisent les caractéristiques des produits, les risques associés, notamment en cas de combustion. C'est-à-dire, nous avons voulu être très complets. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais je vous assure que, enfin, d'une minute à l'autre, c'est quelque chose qui sera fait, que vous trouverez sur notre site.
Vous avez évoqué aussi, monsieur le préfet, de la présence d'H2S, d'hydrogène sulfuré. À haute dose, gaz est mortel. Donc, les pompiers ont été exposés dès les premières heures de jeudi 26 septembre à ce gaz. Et ils sont toujours vivants. Est-ce que vous pouvez donner quand même les dosages de ce hydrogène sulfuré qui est encore présent dans l'atmosphère?
Donc là, moi, je ne les ai pas. Je n'ai pas ces éléments-là pour ce qui concerne l'incendie lui-même. Aujourd'hui, nous avons une situation de qualité de l'air à Rouen qui est normalisée. Il n'y a pas d'ambiguïté à cet égard. C'est une qualité de l'air.
Monsieur le Préfet, vous ne pouvez pas dire ça. Nous sommes dans les locaux de Paris Normandie.
Non, mais attendez, je
ça
n'ai
pue.
Pas dit.
Mais... Vous ne pouvez pas
non, mais...
dire ça.
Rossignol. Je suis
désolé.
Est-ce que vous permettez que je m'exprime? Moi, les techniciens distinguent d'une part ce qui a trait à la toxicité de l'air et d'autre part ce qui a trait à l'odeur. L'odeur, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle est inacceptable, elle est incommodante, inconfortable, elle est plus que dérangeante et elle doit cesser. J'ai pris un certain nombre de mesures imposées à l'exploitant qui est en train d'y travailler pour y mettre un terme. Il y a deux sources principalement. Ces odeurs ont deux sources. D'une part, des nappes d'huile et d'hydrocarbures et de mousse utilisées par les sapeurs-pompiers qui peuvent se décomposer, que nous commençons à pomper, plus exactement que l'exploitant commence à pomper. Et d'autre part, une évacuation de fût pour lequel un protocole a été mis en place aujourd'hui et où une entreprise spécialisée en évacuation de déchets industriels est d'ores et déjà désignée.
Monsieur le préfet, encore deux questions très rapides, oui. S'il vous plaît, très rapides.
Ah oui,
un professeur, Clément Lefebvre, qui a exercé son droit de retrait, vous interroge très rapidement.
Très rapidement, une question très brève. Pourquoi avez-vous laissé mes élèves se rendre jeudi matin au collège, alors même que mon collège est à 700 mètres de l'usine ?
Je n'ai pas entendu votre question, excusez-moi.
Pourquoi avez-vous laissé mes élèves qui sont à quelques mètres de l'usine se rendre dans l'établissement qui se trouve à 700 mètres de Lubrizol au Petit-Quevilly ?
Écoutez, sur le Petit-Quevilly, il y a eu effectivement un débat avec le colonel des sapeurs-pompiers qui n'était pas sous le vent. Effectivement, cette décision avait été prise. Mais nous étions, il faut bien le comprendre, dans une situation de crise extrême. Et ce sont les mesures qui ont été prises sur le moment, au moment où justement nous étions tout entiers mobilisés sur l'extinction du feu qui a pris une douzaine d'heures et qui n'a pas, enfin qui heureusement s'est terminé sans blessés et sans décès.
Merci beaucoup, Monsieur le Préfet Pierre-André
Merci.
Durand,
Je
d'avoir réagi
remercie.
Ce soir. Vous nous dites ce soir que vous n'êtes pas allé trop vite en besogne, hein, pas de mea culpa, c'est ce que vous nous dites ce soir.
Non, je sais que c'est compliqué à entendre, mais je vous l'assure.
Merci à vous en tout cas. On reste en direct de Rouen pour cette édition spéciale. Encore un quart d'heure avec nos invités autour de cette table dans ce studio de Paris Normandie. À tout de suite.
Votre grand journal du soir en édition spéciale en direct de Rouen avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy en direct de Rouen dans les locaux du journal Paris Normandie. Nathalie.
Et oui, encore un quart d'heure et appelez-nous du coup au 3921 si vous avez des questions, comme Nathalie d'ailleurs. Nathalie, ce n'est pas une question, c'est une information que vous nous communiquez ce soir.
Oui, bah, on a eu les résultats, c'est une véritable catastrophe. On nous a carrément menti. Il y a des vies, on est vraiment... j'en pleurais parce que c'est vraiment... c'est dingue. Franchement, on nous a pris pour des abrutis. Nous, avec Pierre, avec Michel Noël, on, et sa femme, on se bat, on est trois. La politique, on s'en foutait royalement, mais nous, ce qu'on voulait, c'est la vérité. Il y a des enfants qui sont partis, ils étaient tellement malades que... enfin, c'est pas possible, quoi. Pourquoi on nous a fait ça à nous, quoi ? Pourquoi on nous
expliquez-nous, juste, pardonnez-moi, juste Nathalie, pour qu'on comprenne bien, vous parlez d'un établissement scolaire, c'est ça ?
Oui, il y a eu 4 écoles encore qui ont été évacuées tout à l'heure.
Tout à l'heure, donc. Alors que depuis lundi, les enfants allaient en classe, depuis hier.
Les enfants allaient en classe, tout à fait.
Et là, on vous a donné une explication ? On vous a donné une explication ? On vous a signifié quelque chose ?
J'ai vu sur Facebook et en plus Facebook m'a bloqué, donc en fait c'est vraiment très très difficile pour moi de dire attention, venez nous aider, on a mis des pétitions, etc. Tout à l'heure j'ai même appelé les pompiers en leur disant bah, écoutez, vous êtes nos anges gardiens, la seule chose que je souhaite du fond du cœur, c'est que vous soyez reconnus comment on appelle ça.
On comprend on entend votre émotion, Nathalie, et votre trouble aussi ce soir. Merci beaucoup, Nathalie. Thierry Rabier, je crois que vous avez, de Paris Normandie, bien sûr, vous avez d'autres informations sur les écoles, sur les établissements scolaires ?
J'ai surtout précisé, effectivement, il y a 4 écoles où les directrices ou les directeurs ont demandé aux parents de venir chercher les enfants. Ce sont les écoles Anatole France, Achille Lefort, André Potier et Franklin. Donc, après le déjeuner, les directeurs ont appelé les parents, envoyé un système Excel. Ça fonctionne très bien sur les écoles de Rouen. Et une grande partie des parents sont venus chercher leurs enfants en raison d'odeurs persistantes dans les locaux des écoles.
On va retrouver Théo Manval en direct de la marche à Rouen qui a démarré du palais de justice et qui s'est poursuivie jusqu'à la préfecture. Théo Manval, on entend du bruit derrière vous. Est-ce que ça veut dire qu'elle se poursuit cette marche ?
Oui, le cortège 300-400 personnes, en tout cas plusieurs centaines, est arrivé sur les marches de la préfecture. Les manifestants qui ont déroulé une banderole stop à l'enfumage. C'est une foule vraiment très diverse, Nathalie. Il y a ici des agriculteurs, des retraités, des soignants, des familles aussi. Johan est par exemple venu avec ses deux enfants, masque et combinaison intégrale sur le visage et sur le corps. Il dénonce, et c'est le mot d'ordre, le manque d'information de la population.
Je ne crois absolument pas tout ce qu'on nous raconte à la télé, c'est encore minimiser les choses pour la paix, je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, après les affaires comme Tchernobyl et autres, Fukushima, il faut arrêter, on n'est plus dans les années 50. On a la chance d'avoir les réseaux sociaux ou les informations. Et voilà, moi je suis venu là avec mes deux enfants, avec le masque, les bottes, voilà, pour montrer que si on ne bouge pas en 2050, il n'y aura pas de Dior. Il n'y aura pas de Chanel, ça sera juste cet habillement-là pour le monde et pour nos enfants surtout. Et c'est pas ce que je veux, tout ça. Le Brizol, c'est pas la première. Il y a eu déjà des cas en 2013 sur Rouen et au début du mois sur Le Havre, sur le site.
Voilà, vous entendez la colère aussi des représentants écologistes. Yannick Jadot, qui était présent ici jusqu'il y a quelques minutes, demande au préfet, au gouvernement, de donner toutes les précisions. Yannick Jadot qui accuse, c'est le gouvernement, dit-il, en faisant de la rétention d'informations, selon lui. C'est le gouvernement qui crée de l'angoisse, a-t-il déclaré.
Théo Manval en direct de cette marche de Rouen, et grâce à vous Thierry Rabier, j'ai pu voir une image, la densité évidemment des gens présents sur place, les Rouennais. On voit effectivement que la foule est très dense ce soir, et cette marche qui va du palais de justice à la préfecture, on l'a dit, sous les fenêtres du préfet tout à l'heure qu'on avait en direct. On est à Rouen, on est en direct, restez avec nous, on se retrouve dans une petite seconde.
Votre grand journal du soir en direct de Rouen avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et ses invités en direct de Rouen ce soir dans les locaux du journal Paris-Normandie.
Oui, on est en direct encore pour quelques instants avant de retrouver Émilie Mazoyer. Ce direct depuis Rouen pour essayer de comprendre ce qui se joue depuis 5 jours après cet incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Maître Jonas Haddad nous a rejoint à l'instant. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir.
Des plaintes, on a vu qu'il y en avait de plus en plus. Je crois qu'on est à une quarantaine ce soir de plaintes transmises, en cours de transmission. Vous représentez plusieurs habitants de Rouen.
À titre personnel, je représente à la fois des riverains, mais également des agriculteurs, mais aussi des entrepreneurs, certains qui sont juste en dessous de nos locaux et qui ont subi des désagréments de santé, des désagréments financiers, mais également des désagréments finalement d'incapacité à aller travailler. Et donc ces trois désagréments, il faut que nos auditeurs comprennent qu'à Rouen, ce qui se passe, c'est une sorte de marée noire, mais dans l'air. Alors l'objectif n'est pas de dénigrer, mais d'avoir une situation lucide. Et c'est pour ça que ces plaignants sont venus nous voir. Le code pénal et le code de l'environnement prévoient des textes très clairs pour fonder leurs actions.
On va se dire un mot rapide avant de conclure. Je voudrais juste, avec vous, parce que vous avez la gentillesse de nous accueillir dans vos studios, enfin dans vos locaux de Paris-Normandie, Thierry Rabier, parler évidemment des pompiers, les 240 pompiers qui ont été à pied d'œuvre.
Ils se sont relayés pendant plusieurs heures pour maîtriser cet incendie qui a été maîtrisé en moins d'une journée. C'est fantastique. Et je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, par rapport aux produits dont on a la connaissance, les pompiers ont eu des vomissements, des céphalées, mais ils ne sont pas morts. Alors que s'ils avaient été exposés à des doses toxiques, ils seraient décédés aujourd'hui, car certains sont intervenus sans masque isolant, sans masque filtrant, juste avec des masques FFP3. Et j'aimerais rappeler quand même, sans tomber dans le misérabilisme et sans le catastrophisme, sous nom nu du Cuba Libre en 2016, 14 jeunes sont morts dans une cave rouennaise piégée par des fumées toxiques. Et là, c'était vraiment des fumées toxiques. Ils sont morts en quelques secondes.
Un mot, Nicolas Mayer-Rossignol, vous qui êtes élu municipal de Rouen, très vite.
En m'associant aux remerciements pour les pompiers, également mentionner les salariés de Lubrizol qui ont aussi agi dans l'urgence. Il faut le dire aussi. C'est très simple. On demande le respect et du concret. Rouen n'est pas la poubelle de la France. Le respect est du concret. C'est une catastrophe, pas locale, elle est nationale.
Un dernier mot avec vous, simplement Bruno Le Dru. On ne rentre pas sans vache en sifflant. J'ai entendu un de vos collègues dire ceci. Comment vous allez faire encore demain ?
Encore demain, on va les laisser sous le hangar, mais il va nous falloir des solutions rapides. Et puis au-delà de ça, je pense qu'on ne veut pas attaquer la réputation des produits agricoles normands qui sont vraiment au top et on s'efforce de les faire tous les jours très bien.
Exactement. Clément Lefebvre, le professeur, pour conclure.
Nous, on ne veut pas laisser les familles dans l'embarras. Les familles seront informées sur le site du collège de qui se sentira de venir travailler.
Merci à tous. Merci beaucoup à vous, à Paris-Normandie, Thierry Rabillet et toute l'équipe de Paris-Normandie, la rédaction de ce quotidien qui nous a accueillis chaleureusement ici, compte tenu des circonstances. Merci infiniment. Émilie Mazoyer, dans une seconde, je vous donne la parole. J'annonce juste que Mathieu Béliard sera aux commandes de son 6-9 demain matin, ici même, dans les locaux de Paris-Normandie. Merci à vous tous qui nous avez contactés au 39-21. Les Rouennais, on suit évidemment l'évolution de la situation. On attend, bien entendu, la liste des produits, tout comme vous, et on s'en fera l'écho sur Europe 1. Merci à tous. Émilie Mazoyer, c'est à vous et le
merci,
programme.
Merci Nathalie Lévy, bravo pour cette belle spéciale et plein de force et de pensée aux amis de Rouen ce soir sur Europe 1. Eh bien, on a la joie de vous faire gagner les toutes premières places pour le concert de Céline Dion en Vieille Charrue.
Wow.
La billetterie va ouvrir dans 8 jours et ce soir sur Europe 1, dans Musique, on vous offre les toutes premières places. Alors restez bien à l'écoute.
Ça, c'est du cadeau. Hein.
Moi, j'en veux une. Hein.
Moi aussi. Hein. Vous viendrez avec moi, les filles, je vous mets dans ma valise.
Avec grand plaisir.
Merci Nathalie Lévy. À demain, 18h, pour une nouvelle édition du Grand Journal du Soir sur Europe 1.